quelques principes guidant hors de l'apostasie, vers l'esprit et la vie chrétien de nouveau 1. Qu'il n'y a de salut que par la vraie connaissance de Christ. Les Juifs avaient reçu les ordonnances de Dieu, et connaissaient le Messie à venir, et y croyaient, et étaient très zélés dans leur culte, dans l'observation de la circoncision, de la Pâque, des nouvelles lunes et des sabbats, etc. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel et me courberai-je devant le Dieu Très-Haut ? Et pourtant Dieu se plaint de par son prophète, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Et l'état est le même sous l'apostasie antichrétienne, dans laquelle la prostituée a enivré toutes les nations, tribus, langues et langages avec la coupe de sa fornication. La vraie connaissance et le vrai culte ont été perdus, bien que les yeux de ceux qui ont été dans l'apostasie et qui ont bu de la coupe ne puissent le voir, pas plus que les Juifs ne le pouvaient en leur temps, mais pour être plus précis. La connaissance de Christ n'est pas littérale, traditionnelle ou charnelle, et ne peut pas être reçue par l'entendement naturel. Mais elle est spirituelle, et l'entendement qui la reçoit doit être donné par Dieu. Il nous a donné une intelligence, afin que nous connaissions celui qui est vrai. 1 Jean 5:20. Un homme peut lire les Écritures, entendre des sermons, etc., et ainsi amasser une connaissance dans l'ancien entendement, mais ni cet entendement dans lequel la connaissance est amassée, ni la connaissance elle-même qui est amassée ne sont spirituelles mais charnelles, et ne peuvent donc sauver. Celui qui en vient, une fois, à recevoir un entendement de Christ, et à avoir la connaissance de Christ répandue par Christ dans son cœur, connaît la différence entre cela et l'entendement dans lequel il amasse des choses. La connaissance de Christ selon la lettre, et une foi en lui proportionnée à une telle connaissance, ne sauvera pas. Mais un homme doit le connaître dans cet esprit, cette vie et cette puissance dans lesquelles il a vécu, s'il veut être solidement établi dans l'espérance d'être sauvé par lui. 2 Cor 5, 16-17. Toutes choses m'ont été remises par mon Père, et nul ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, nul ne connaît non plus le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Matthieu 11, 27. Le Père et le Fils ne sont connus que par révélation, le Fils le révélant, car le Fils et le Père sont un. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est révélé en eux, car Dieu le leur a montré. Romains 19. Non pas en lisant au sujet de Dieu, non pas en entendant quelqu'un parler de Dieu, car Dieu et Christ ne sont connus que par révélation dans votre cœur, là où vous l'entendez et le voyez vous enseigner au sujet du péché, de la justice et de lui-même. Jésus a dit, « Venez à moi. » Apprenez de moi, Matthieu 11, 28-29, Jésus a dit, « Venez à moi à maintes reprises, vous devez aller à lui en vous asseyant tranquillement et en l'écoutant pour qu'il vous parle. Vous n'apprenez pas de l'esprit en lisant l'Écriture, en allant à l'Église, en allant à des réunions de prière, des cercles de prière, des discussions avec d'autres chrétiens charnels, en écoutant des sermons prononcés par des prédicateurs non perfectionnés, en chantant des cantiques, etc., de la parole du Seigneur au-dedans. On ne trouve pas Dieu en allant à des offices ni en lisant à son sujet. Il y en a qui professent connaître la vérité, n'ayant pour tout que la connaissance de la Bible. Cela ne m'a aucune valeur de connaître des vérités et de ne pas connaître le Seigneur. Le connaissez-vous ou faites-vous seulement semblant de le connaître ? Le connaître, c'est l'avoir rencontré et l'avoir écouté. Cherchez la rencontre. Ne pensez pas être en sécurité tant que vous n'avez pas été repris et repris. Vous ne pouvez pas être au-dessus de toute question, cela ne peut pas recevoir de réponse. Assurez votre élection. 2. Que Christ sauve par la nouvelle alliance, non par quelque chose introduit dans l'esprit par l'ancienneté de la lettre Bible, mais par une vie engendrée qui est nouvelle. Il est fait mention de deux alliances dans l'Écriture, dont l'une est appelée l'ancienne, l'autre la nouvelle. L'ancienne appartenait aux Juifs, elle a été abolie, et concernait leur cérémonie, leur état et leur gouvernement. La nouvelle est meilleure que la précédente, et Christ en est le médiateur, Hébreux 8:6. En faisant la médiation entre Dieu et l'homme, ou en les réunissant dans cette alliance et selon cette alliance, il sauve. L'homme par sa désunion et son éloignement de Dieu périt, mais en étant ramené à Dieu en union avec Dieu, il revit ce que Christ opère par la nouvelle alliance. Quiconque n'est pas conduit par Christ dans cette alliance n'est pas dans l'état du salut. Le christianisme enseigne que Christ, étant le médiateur, est comme un avocat de la défense qui ne perd jamais un procès et qui va excuser leur vie de péché parce qu'il croit, mais ce n'est pas la fonction de Christ le médiateur. La fonction du médiateur n'est pas d'excuser, elle est de transformer un homme afin qu'il devienne saint et pur, libéré de tout péché par le médiateur, perfectionné pour toujours, et en union avec Christ et Dieu, parlant et agissant selon la volonté de Dieu, et non plus selon sa propre volonté. Lui qui est le rayonnement de sa gloire et l'empreinte de sa substance, et qui soutient toute chose par la parole de sa puissance, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux très hauts, Hébreux 3 remarqué. Jésus était alors prêt à purifier les péchés, non à excuser les péchés, non à ignorer les péchés, mais pour de vrais disciples, à extirper le péché d'eux, les libérant de l'esclavage du péché, à les nettoyer totalement et à les perfectionner, en les sanctifiant et en les rendant saints pour toujours. Hébdis 14. Voilà ce que fait la vraie grâce rachète de toute iniquité, péché, acte sans loi, et purifie un peuple qui lui appartient en propre, zélé pour les bonnes œuvres, Tite 11-14, œuvres qui sont selon sa direction, quant à ce qu'il faut faire et à ce qu'il faut dire. C'est le rôle de Jésus comme médiateur de la nouvelle alliance. De la parole du Seigneur au-dedans, êtes-vous d'accord avec ceux qui, dans leur arrogance, ont déclaré que Dieu excuse le mal chez les croyants? Ce n'est pas juste, mais ils s'en moquent. Tout le monde s'attend à ce que Jésus soit son excuse, tous les hommes sont inexcusables. Si je me taisais, ils auraient une excuse, tout homme a entendu l'appel à se repentir. Je les ai avertis, je leur ai donné les exigences et j'ai prêché les exclusions, ils ne devraient rien attendre d'autre ni d'autre conclusion. Seul un cœur purgé du péché est acceptable à Dieu. Jésus n'est pas mort pour que vous continuiez à pécher, j'aurais tout aussi bien évité cette mort horrible. Je l'ai fait pour vous montrer l'ampleur de l'obéissance requise pour votre propre salut. Si vous péchez encore, vous appartenez au péché et non à moi. L'Esprit de grâce à la foi accusée haute, comme Jésus l'a dit, repentez-vous, et il a aussi guéri. Par la miséricorde et la grâce, le mal est ôté de votre cœur. Le Seigneur peut contourner n'importe quoi chez un homme. Je me tiens avec ceux qui ont été libérés du péché. Voyez-moi, ainsi aucun péché n'a de place en moi. Le péché chez les croyants est intolérable. La perfection de l'homme libère de la mort, repentez-vous de votre mal. Ne marchez pas selon la chair. Le péché dure jusqu'au salut, qui laisse place à la sainteté et à la pureté. La fin, c'est un jugement compatissant et la délivrance du péché. La délivrance du péché libère de la mort. Quand vous avez été libéré du péché, votre récompense est la sainteté. Moi qui vous ai appelé, je suis saint, soyez saint. L'Esprit rend un homme saint. 3. Que la nouvelle alliance est écrite dans le cœur. Sans cela, il n'y a pas d'autre moyen d'entrer dans la nouvelle alliance, dont Christ est le souverain sacrificateur et le médiateur, que d'avoir les lois de Dieu écrites dans le cœur. Voici l'alliance. Je mettrai mes lois dans leur esprit, et je les écrirai dans leur cœur. Ils n'enseigneront pas chacun son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, du plus petit au plus grand » et Hébreux 8:10-11. Il parle de l'alliance dont Christ est le médiateur, Hébreux 6, qu'il appelle une nouvelle alliance, Hébreux 8, et il dit qu'elle n'est pas comme l'ancienne, Hébreux 9, en donnant deux différences principales, où elle est très dissemblable. Un, l'ancienne est écrite extérieurement en lettres, pour être lue par l'œil extérieur, mais celle-ci est écrite intérieurement dans le cœur et l'esprit, et ne peut donc être lue que par un œil spirituel. Et deux, sous l'ancienne, ils avaient besoin d'être enseignés par des hommes, les lèvres du prêtre devaient con. De la loi vient la connaissance de Dieu, la loi est dans le cœur. Et de la loi dans le cœur jaillit la connaissance de Dieu chez le plus petit et chez le plus grand qui sont dans cette alliance, de sorte qu'ils n'ont pas besoin de dire « Connais le Seigneur ». Tel est l'état de la nouvelle alliance, auquel les chrétiens parvinrent en ces jours-là, 1 Jean 2, 27. Mais cela a été une chose étrange durant cette sombre nuit d'apostasie, et c'est encore une chose étrange pour beaucoup. Mais que de tels considèrent, un homme peut-il être chrétien et être hors de cette alliance dont Christ est le médiateur? Un homme peut-il être ramené à Dieu par Christ, et pourtant être hors de l'alliance par laquelle Christ ramène les hommes à Dieu? Oh! Comme Satan a abusé de pauvres âmes dans cette épaisse nuit de ténèbres, en amenant les hommes à croire qu'ils ont la foi en Christ et qu'ils seront sauvés par elle, tandis qu'ils sont totalement ignorants et étrangers à l'alliance par laquelle Christ, le médiateur, sauve, ils me connaîtront tous du plus petit au plus grand. Notez. Là, le moindre homme, dans cette alliance à la loi si écrite, dans son cœur qu'il n'a pas besoin de chercher extérieurement la connaissance. Quand vous entendez un commandement de l'Esprit, parlant du dedans de votre cœur, cela vous communique la vie de Dieu. Et ce commandement s'établit comme une nouvelle loi dans votre cœur, ajoutée à la loi intérieure de Dieu déjà existante dans le cœur de tout homme. De la parole du Seigneur au-dedans, quand vous avez entendu les paroles mortes dans la Bible et que vous vous en souvenez, prenez garde à ce qui est dit, obéissez toujours à ses commandements. Vous devez obéir à toute loi que l'Esprit établit. 4. Que l'Esprit de Dieu seul peut écrire l'alliance dans le cœur, ou que Christ écrit l'alliance par son Esprit, l'homme, avec toute sa sagesse, ne peut y parvenir. L'homme est chassé loin de Dieu et ne peut retrouver le chemin vers lui sans les enseignements et la conduite de l'Esprit même de Dieu. Ce n'est pas d'avoir reçu dès l'enfance quelque éducation religieuse, ou d'abandonner cela et de courir ensuite vers une secte quelconque, qui produira un quelconque bénéfice, mais seulement d'écouter la vraie voix du vrai esprit. Il est écrit dans les prophètes, au sujet des enfants de cette alliance, qu'ils seront tous instruits par Dieu, et tous tes enfants seront enseignés par l'Éternel. C'est le Seigneur seul qui, par son esprit, leur enseigne à venir à Christ et à recevoir de Christ la nouvelle alliance dans leur cœur. Car l'homme est incapable de connaître ou de recevoir Christ, ou son alliance, jusqu'à ce que l'Esprit l'ait préparé et instruit, Jean 14, 17. Mais lorsqu'il a préparé et disposé son cœur, alors de son propre doigt il écrit la loi pure de la nature et de la vie de Christ avec cela, par la réception de laquelle l'homme sort de son propre esprit et de sa propre nature ténébreux pour entrer dans la vraie connaissance de Dieu et l'union avec lui. « Je mettrai mon esprit au-dedans de vous », Ésaïe 36, 27. C'est une partie de l'Alliance, et en vérité la partie par laquelle tout le reste s'opère. 5. Par conséquent, le premier pas convenable en religion, c'est de savoir comment rencontrer l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de progrès, pas de véritable progrès, à faire dans la vraie religion jusqu'à ce qu'un homme entre dans l'Alliance, et il n'y a pas d'entrée dans l'Alliance sans l'Esprit. Par conséquent, la première chose absolument nécessaire à connaître en religion, c'est l'Esprit, son écriture dans le cœur, ou du moins ses mouvements et ses impulsions dans le cœur. On peut encore le montrer ainsi, toutes choses en religion, agréables à Dieu découlant de l'Esprit, toute connaissance doit venir de lui, car lui seul a révélé et peut révéler la vérité, et il est établi par Christ pour conduire dans toute la vérité. Tout culte doit être offert en lui. Ceux qui adorent le Père doivent l'adorer en esprit et en vérité, car le Père cherche de tels adorateurs, mais il rejette tous les autres adorateurs et tous les autres cultes, si glorieux que leur culte leur paraisse, en particulier la prière doit toujours être dans l'esprit d'Éphésiens 6:18, Jude 20, de même le chant, etc. Oui, toute la vie et la conduite doivent être dans l'esprit, Galates 5:25, la mortification de toute corruption doit se faire par l'esprit. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, Rome 8:13. En vérité, un chrétien n'est rien et ne peut rien faire sans la puissance et la présence de l'Esprit de Dieu en lui. Donc si rien, en religion, ne peut être fait avec l'approbation de Dieu sans l'Esprit, alors l'Esprit est la première chose à rechercher, par celui qui voudrait être vraiment et solidement établi en matière de religion. 6. Le premier moyen de rencontrer l'Esprit de Dieu, c'est comme celui qui convainc du péché. Voici la véritable entrée, c'est la clé qui ouvre sur la vie éternelle, que celui qui peut la recevoir, la reçoive. Ce n'est pas en s'élevant vers de hautes imaginations et des formes de culte, mais en descendant vers cette chose humble. C'est la première et la plus appropriée œuvre de l'Esprit de Dieu envers l'homme déchu, par laquelle il ouvre la voie à l'écriture de la loi de Dieu dans le cœur, à savoir convaincre du péché, et où l'homme devrait-il d'abord chercher à le rencontrer, sinon dans sa première œuvre sur lui. Lorsque Christ a promis le Consolateur, l'Esprit de vérité, il a dit à son sujet qu'il convaincra le monde de péché, Jean 16, 8. Ceux qui ont été recréés en Christ et sont devenus ses disciples reçoivent du réconfort de l'Esprit, mais qu'est-il pour le monde, ou comment peuvent-ils sentir quelque opération de sa part? Eh bien, il est pour eux celui qui convainc du péché, et ils peuvent le trouver les reprenant et les convaincant de leur péché. Ainsi la grande œuvre pour l'homme, tant qu'il demeure dans les ténèbres, car lorsqu'il sera transféré dans la lumière, ce sera facile, est de distinguer les mouvements et les impulsions de l'Esprit de Dieu astérisque et voici la meilleure manière, pour l'homme dans cet état, de les reconnaître, ce qui découvre ce qui est mauvais cela est bon. Ce qui découvre ce qui est spirituellement mauvais, cela doit être spirituellement bon, car le mal est ténèbre et ne peut se rendre manifeste lui-même. Ce qui découvre ce qui est indubitablement pur et incline, cela doit être de Dieu. Or connaître cela et s'y joindre, c'est joindre la créature à Dieu par quelque chose de lui qui vient de son esprit, et c'est ainsi un véritable commencement de la vie éternelle. Astérisque la grande œuvre pour l'homme, tant qu'il demeure dans les ténèbres, est de distinguer les mouvements et les impulsions de l'esprit de Dieu, de ceux de son propre esprit et de Satan. Tous les hommes s'assoient dans les ténèbres, et marchent dans les ténèbres jusqu'à ce que leur cœur ait été purgé du mal qui les souille. Quand un homme est transféré dans la lumière, ce sera facile de distinguer les mouvements de l'Esprit de Dieu de ceux de l'ennemi. De la parole du Seigneur au-dedans, la lumière vient de la foi dans la voix. La foi consiste à entendre la parole de Dieu et à obéir. Et à ceux qui obéissent, il apparaîtra comme une magnifique étoile dans votre cœur. D'abord la lumière se lève, puis le royaume. 7. Ce par quoi l'Esprit de Dieu convainc du péché, c'est sa lumière qui brille dans la conscience. L'homme déchu est ténèbre, la lumière brille dans les ténèbres et montre à l'homme le mal, qui autrement resterait caché en lui. L'homme est tombé loin de Dieu, a perdu l'image de Dieu et est devenu entièrement ténèbre, mais l'Esprit de Dieu est lumière, et il brille dans les ténèbres, et lutte avec l'homme pour le ramener à cette lumière dont il est tombé. Dieu, qui a commandé que la lumière resplendît du sein des ténèbres, a resplendi dans nos cœurs, pour faire briller la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu. 2 Corinthiens 4, 6, où les apôtres et les chrétiens de ces jours-là ont-ils rencontré la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu en Christ, Dieu a resplendi dans leur cœur. Celui qui a fait resplendir la lumière hors de l'abîme ténébreux, Gène 1, 2, par son esprit, c'est lui qui, par ce même esprit, a fait briller la lumière de la connaissance de la vie dans leurs cœurs obscurs, et c'est là aussi que l'œuvre de conviction s'accomplit par ce même esprit. Celui qui mène à perfection la bonne œuvre dans le cœur est celui-là même qui la commence là, et son commencement consiste à reprendre et à convaincre du péché, et ainsi à détourner le cœur de celui-ci vers Dieu, et vers l'obéissance à cette justice qu'il rend manifeste. Et celui qui ne rencontre pas l'Esprit au commencement de son œuvre, ou qui recule et ne poursuit pas avec lui, mais étouffe ses reproches, ne renonçant pas à ce pourquoi il est repris ni ne s'en séparant, n'a guère de chance de le rencontrer à la fin. Et alors il sera trop tard pour lui d'accuser cette religion où il n'y avait qu'une forme morte, et non la puissance vivante de Dieu. Celui qui veut venir à la vie éternelle doit être transféré hors de son entendement mort, et de toutes ses voies et ses cultes morts qui plaisent à cet entendement, dans un principe vivant, et demeurer dans ce principe. Et alors il connaîtra la vie en vérité, et la vraie nourriture de cette vie, et le vrai culte et service qui procède de cette vie, et la récompense qui appartient à tous. 8. Que cette lumière qui convainc du péché brille dans toute conscience, il t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bon, Michée 6, 8. La vie qui était en Christ était la lumière des hommes, Jean 1, 4. Christ est la lumière du monde, Jean 8, 12. De même que Dieu a aimé le monde, il a manifesté son amour au monde en y envoyant sa lumière, pour éclairer tout homme venant au monde, afin qu'avec la lumière il puisse voir son Fils, et à tous ceux qui le reçoivent, il donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, ainsi il a donné à tous cette lumière qui peut conduire à la connaissance de la vérité qui sauve. Il est la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde, Jean 1, 9. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, etc. De même que l'ennemi a pris possession du cœur de tout homme en le remplissant de ténèbres, ainsi Christ poursuit et cherche à déposséder l'ennemi par la lumière qu'il envoie après lui en chaque homme. Et c'est là la condamnation de l'homme, non qu'il lui manque une lumière pour témoigner contre lui et l'arracher à l'ennemi, mais qu'il aime l'ennemi et choisit d'être un avec l'ennemi, mais il est la lumière et s'en détourne, Jean 3, 19, 20. Il écoute les raisonnements de son esprit contre la lumière, et ainsi l'étouffe et l'étrangle, mais il ne se tourne pas vers la lumière afin que tous les raisonnements de son esprit soient soumis par elle et assujettis à elle. Les hommes rejettent les douces instances de la lumière parce qu'ils aiment les passions et les plaisirs de leur mode de vie égoïste, ils n'ont aucun intérêt à changer et rejettent donc toute suggestion de changement. 9. La vraie voie vers la vie éternelle, c'est de croire en la lumière de l'esprit qui brille dans la conscience. L'homme est dans les ténèbres qui le tiennent dans la mort, et il n'y a pas moyen de sortir de la mort sans sortir des ténèbres, et il n'y a pas moyen de sortir des ténèbres sans suivre cette lumière qui les dévoile et appelle à en sortir, et celui qui la suit ne peut pas demeurer dans les ténèbres, mais doit en sortir. Il y a dans l'homme un principe mauvais qui appelle au mal, et il y a un bon principe qui appelle du mal au bien, or celui qui suit le bien ne peut suivre le mal mais s'en éloigne. « Je suis la lumière du monde, dit Christ, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, Jean 8, 12. » Mais voici ce qui perd l'homme, il aime les ténèbres, il aime le monde, la marche du monde, les cultes du monde, il aime son propre entendement et sa propre volonté, et il est donc cette lumière qui contredit tout cela, et qui voudrait lui enseigner, par le renoncement à ces choses, à crucifier cette nature dont elles jaillissent et à laquelle elles conviennent. Et de là vient que l'amour du péché au-dedans étant fort, et Satan, l'homme fort, gardant la maison, les mouvements de l'Esprit de Dieu sont aisément submergés, soit par des raisonnements de l'entendement, soit par la perversité de la volonté. Mais si quelqu'un osait s'y confier, il découvrirait vite de quelle nature ils sont, par la forte opposition de l'homme fort contre eux. C'est en vérité un chemin étroit et resserré, dans lequel aucune chair ne peut entrer et marcher, et pourtant c'est le seul chemin, car il n'y a pas de vie en Dieu, pas de paix avec Dieu, tant que l'ennemi vit dans le cœur. Mais quand la lumière est reçue et qu'on se tourne vers elle, alors la puissance commence à œuvrer, qui tue l'ennemi dans le cœur, et cela étant fait, il n'y a plus de guerre mais la paix. Alors la vraie paix, qui surpasse l'intelligence, remplit et rafraîchit le cœur. À ce moment-là, la paix qui était auparavant dans l'âme n'était que la paix de l'ennemi, et elle ne durera pas plus longtemps que l'ennemi est autorisé à conserver paisiblement la possession. 10. Que croire en la lumière de l'esprit, qui brille dans la conscience, unit l'âme à Dieu et lui ouvre les sources de la vie. La croyance aux ténèbres, qui est l'incrédulité envers Dieu, a désuni l'âme et lui a fermé les sources de la vie. La croyance à la lumière envoyée pour conduire hors des ténèbres réunit de nouveau et rouvre les sources. Dieu est lumière, il habite en la lumière et y jouit de la plénitude de la vie. Il donne une mesure de sa propre lumière pour attirer hors des ténèbres. Celui qui croit et suit cette lumière est conduit par elle à Dieu, d'où elle est venue, et étant sorti des ténèbres pour venir à lui, il commence de nouveau à sentir les sources de la vie, les sources fraîches de la vie qui sont en lui. Celui qui croit vient au puits du salut, en tire de l'eau vive, et boit continuellement de l'eau vive, de sorte qu'il n'a plus jamais soif, oui, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Voilà le fruit de la vraie foi, mais ce n'est pas le fruit de la foi de l'apostasie. Là, l'âme demeure encore désunie de Dieu et unie aux ténèbres, et ne boit pas des courants vivants, mais boit une eau morte. La source de la vie pure ne lui est pas ouverte, seule la source de l'iniquité lui est ouverte, et ce sang qui purifie et ôte le péché n'est pas connu. Il n'y a qu'un rêve de ces choses dans la sombre nuit de l'apostasie, et par ce rêve la conscience est légèrement apaisée pour le moment, mais lorsque le témoin s'éveille et que la lumière du jour brille, l'âme, qui est maigre, se trouvera entre les mains de l'ennemi dans les liens du péché, et sentira qu'elle n'a jamais connu cette puissance qui pouvait la racheter, mais le serpent subtil l'a trompée avec un nom au lieu de la réalité du nom. C'est la vraie voie, la voie étroite, je puis, en la présence du Dieu vivant, sceller de mon sceau la vérité de cela, qu'il a plu à Dieu de découvrir et de rendre manifeste de nouveau, après la longue sombre nuit de l'apostasie. Nous n'y venons pas en entendant ou en recevant quelques nouvelles notions ou compréhensions des choses, mais en ressentant ce qui met fin à toutes les notions et compréhensions de l'homme, et nous y grandissons par l'accroissement de cette chose en nous. La semence à laquelle la promesse a été faite, la semence qui était avant qu'Abraham fût, est ressentie, et son jour est vu et fait la joie, et par sa lumière les ténèbres sont découvertes, et le royaume des ténèbres est assailli. Comme il tombe chaque jour en bien des points particuliers, ainsi tombera-t-il enfin dans son ensemble, et les royaumes de ce monde deviendront les royaumes du Seigneur et de son Christ, et il régnera sur la terre, où le péché et l'Antichrist ont longtemps régné et l'ont tenu abaissé. Et bien qu'il y ait une grande rage et de grands cris parmi le peuple et les professants au paganisme, pourtant le décret est sorti, et le roi de Sion régnera sur la sainte montagne de Sion, et les collines et les montagnes fondront devant lui, et la terre tremblera tout autour de lui. Rassemblez-vous donc, mobilisez vos fortes forces, ô vous, diverses sortes de professants charnels. Que toutes vos différences, les uns contre les autres tombent, et unissez-vous contre celui qui est contre vous tous. Mettez à profit la sagesse du serpent et formez, à partir de l'Écriture, des arguments avec la plus grande habileté et l'entendement charnel le plus extrême. Ralliez aussi à votre cause les rois, les gouvernants et les magistrats de la terre. Maniez habilement toutes les armes de la chair, disputes, reproches, insultes, fouets, entraves, prison, famine, non, mise à mort. Voyez si vous pouvez soutenir votre royaume, car un puissant s'est levé contre vous, qui vous ôtera la vigne, le royaume, l'héritage, et le donnera à un autre, et sur vous viendront cette mort et ces ténèbres, cette misère et cette destruction, que vous avez éloignés de vous et méprisés comme la part d'autrui. Considérez donc votre condition dans la crainte du Seigneur, et si vous ne vous sentez pas capable de soutenir le combat jusqu'au bout, faites la paix à temps, et que vos plus grandes couronnes, votre sagesse la plus choisie, et votre force la plus grande dans la chair soient déposées aux pieds de Christ, dès la moindre apparition de sa lumière dans la conscience. Que le plus petit avertissement de son esprit n'y soit pas méprisé, mais estimé au-dessus des plus hautes notions de lumière que vous avez amassées, ou que vous pouvez amasser avec vos entendements charnels. Et en vérité, ce n'est rien de moins que ce qui lui est dû, car ce qui jaillit tout frais de l'esprit est plus vivant en soi, et plus approprié à l'état présent de l'homme à qui cela vient, que tout ce que lui-même peut amasser de la lettre par son entendement. Une précieuse semence de Dieu s'est longtemps agitée dans cette nation, mais elle a été opprimée et tenue en servitude par l'esprit de Pharaon et ses sages égyptiens, qui voulaient la soumettre à leurs lois et à leurs cultes, et ne pas laisser Israël sortir d'Égypte à l'appel de Dieu pour l'adorer en esprit et en vérité, mais le maintenir dans des formes et des voies inventées par l'homme. Le Seigneur a répandu ses plaies sur cet esprit et a, de plus en plus, travaillé à la liberté de son peuple, mais à mesure que les plaies cessent, cet esprit s'endurcit et tente de ramener Israël en servitude. Et comme Pharaon renouvelle la servitude d'Israël, ainsi Dieu renouvelle les plaies sur Pharaon et ses Égyptiens. Pharaon a une volonté obstinée et une grande sagesse et puissance, et il répugne à laisser partir Israël, mais le Seigneur aussi est sage et fort, et il a une volonté plus juste que celle de Pharaon, et par sa sagesse et sa force il accomplira sa volonté, et celle de Pharaon ne subsistera pas. Qui est si étranger en Israël qu'il n'est observé que, comme Dieu a commencé à susciter la semence dans cette nation et à l'appeler à la liberté, l'esprit des sages égyptiens s'est levé contre elle, s'écriant « erreur, hérésie, blasphème, voix nouvelle, lumière nouvelle, etc. » Et sans doute beaucoup d'ivraie a surgi, Mais le but de l'ennemi n'était pas tant d'arracher l'ivraie que de détruire la seule bonne semence de blé. Hérode ne visait pas à tuer tous les nourrissons à Bethléem, mais il aurait plutôt voulu les tuer tous que de laisser Christ vivre. Quelle prédication d'un côté! Quels recours aux magistrats de l'autre, et tout cela pour détruire ce jeune enfant! Quand une voie différente de culte apparaissait, comme l'indépendantisme, l'anabaptisme, ou le fait de chercher et d'attendre la vérité, comment se liguaient-ils contre eux, et criaient-ils contre eux, de peur que le jeune enfant ne naquît et n'apparût là? Et maintenant qu'ils voient leur propre image produite là, ils sont en paix avec eux. Et ayant découvert que, là où aucune partie de l'image ou de la marque ne peut être reçue, mais qu'une autre nature en vie en vérité est produite, et qu'aucune forme sans vie ne sera admise, alors ils ont su tirer toutes leurs flèches. Alors ils ont su contre qui inventer et dire toutes sortes de mal, et contre qui diriger toute leur envie, leur rage et leur clameur, et préoccuper d'avance toutes sortes de personnes partout de toutes sortes de préjugés, afin que la vérité ne se répande nulle part, mais soit combattue partout. Et les esprits de tous, là, sont si remplis d'avance du venin du serpent, que la vérité ne peut arriver nulle part sans trouver déjà l'inimitié soulevée et prête à lui résister. C'est une voie nouvelle, une lumière nouvelle, dit l'un, nous connaissions une religion avant que cela ne surgisse, et nous nous en tiendrons à celle-là, que qui voudra court après ces nouvelles sectes et ces voies. Une lumière naturelle, l'ancienne lumière de la nature, dit un autre, ou la lumière corrompue d'Adam, qui s'est transmise à toute sa postérité. Un autre crie que cela rend les Écritures nulles et inutiles. D'autres crient que cela enseigne des choses contraires aux Écritures, que cela établit le libre arbitre, que cela conduit à une alliance d'œuvres, que cela renverse les relations, les lois, les gouvernements, enlève le respect dû à la magistrature et aux supérieurs, et met le monde sens dessus-dessous. Ainsi l'esprit du monde est partout en armes, et un zèle s'allume partout pour le tenir hors de chaque cœur, et hors de chaque lieu et de chaque pays. Or ce ne sont pas des choses réelles, mais de telles calomnies et reproches qui ont toujours accompagné la vérité. Les prophètes de Dieu, Christ et ses apôtres, bien qu'on ait parlé d'eux en bien après coup, furent, en leur temps, haïs, décriés et persécutés par la génération des professants de leur époque. Les scribes et les pharisiens n'auraient pas pu persécuter Christ et ses apôtres avec un si grand avantage sans un semblant de zèle pour la loi et les prophètes. Et pourtant c'était le même esprit qui exaltait si véhémentement la loi, les prophètes, les ordonnances de Moïse, qui persécutaient l'esprit et la vie en Christ et en ses apôtres, d'où venait la loi, les prophètes et les ordonnances. Et c'est le même, aujourd'hui, bien que cet esprit soit aussi aveugle maintenant qu'alors et ne puisse voir au travers de son propre voile, bien qu'il soit aussi faible et aussi étroit que le leur. Le coupable accuse l'innocent, afin de cacher sa propre culpabilité et de conserver son voile. Les Juifs coupables, et les scribes et pharisiens coupables, accusaient les prophètes, Christ et ses apôtres, afin de ne pas être trouvés coupables par eux et de ne pas se voir enlever leur couverture formelle. Et c'est la même chose, aujourd'hui. La vérité s'est levée pour montrer les faux voiles des hommes, et la culpabilité et l'hypocrisie cachées dessous. Pour se sauver, ils sont donc prêts d'avance à porter contre la vérité l'accusation que la vérité porte contre eux. Sondez votre cœur, ne résistez pas à la lumière, vous qui avez accusé la vérité de l'une quelconque de ces choses, et vous y trouverez votre propre état. La vérité n'est pas une lumière nouvelle ni une voie nouvelle, et ceux qui la présentent ne présentent aucune voie nouvelle ni aucune lumière nouvelle. Mais c'est vous qui avez abandonné la bonne ancienne lumière, la bonne ancienne voie, qui était avant l'apostasie, et qui vous êtes ralliés à quelque lumière nouvelle, quelque voie nouvelle, inventée et établie depuis l'apostasie. C'est encore vous qui établissez la lumière naturelle, la sagesse déchue, la sagesse qui est hors de la vie et en inimitié avec la vie, par elle vous nourrissez cet entendement qui doit être réduit à rien, et quand vous avez fait cela vous-même, vous appelez ensuite la lumière spirituelle, par laquelle Dieu l'a poursuivi à travers tous les âges, une lumière naturelle. C'est vous qui, par cette sagesse, scrutant les Écritures et amassant l'ancienneté de la lettre dans l'ancien entendement, rendez les Écritures vaines et inutiles pour votre âme, et ne pouvez rencontrer cette vie et cette puissance dont elles parlent, mais vous êtes encore vivant dans vos péchés et mort à Dieu, puis vous criez contre ce qui vient vous le découvrir et vous faire passer de la connaissance morte à la vie des Écritures, vous criez contre cela comme si cela rendait les Écritures inutiles. Et quand vous avez établi tout un corps de connaissances, de religion et de culte, tout à fait contraire aux Écritures, que la vérité vient rendre manifeste, alors la nature de Caïn se lève en vous, et vous prenez les armes de Caïn, et volontiers tueriez-vous votre frère, parce que son sacrifice dans la foi témoigne contre le vôtre, qui est hors de la foi et contraire au vrai témoignage des Écritures. Encore, quant au libre arbitre et à une alliance d'œuvres, vous avez établi une religion dans l'ancienne volonté et les œuvres, non selon la nouvelle alliance de vie, mais selon l'ancienne alliance de mort. Et par là vous prêchez que cette volonté est libre, alors qu'elle est enchaînée, et vous établissez les œuvres de la justice de l'homme et la conformité à la lettre comme œuvre de la nouvelle alliance. Et quant au gouvernement et aux lois, ce qui est selon Dieu, qui est une terreur pour le mal et une louange pour ceux qui font le bien, ce qui est liberté pour les justes et frein pour les injustes, cela vous vous y opposez et vous criez chaque jour pour que l'épée du magistrat se tourne contre les innocents, parce qu'ils sont une lumière qui découvre vos œuvres de ténèbres, qui sont hors de la lumière, et qui troublent votre paix et votre installation dans ce qui est charnel, et de l'homme, et non de Dieu. De même pour les relations et l'honneur aux magistrats, la nature transgressante a produit une chose fausse, une chose charnelle, un honneur et un devoir qui sont de la chair, qui plaisent à la chair, et ne sont pas selon Dieu. Et ce n'est pas là l'honneur véritable, pas un honneur qui tienne, pas un honneur qui soit justifié devant Dieu, mais c'est une honte pour ceux qui le donnent et une honte pour ceux qui le reçoivent. Cela révèle qu'ils sont serviteurs de la chair, donnant à la partie charnelle et recevant de la partie charnelle ce que la partie charnelle, qui crucifie la vie, réclame et dont elle se contente. Tout ce que la lumière fait à l'égard de ces choses, c'est de les découvrir et de les condamner, et le but de cette découverte est qu'elles puissent être ôtées, et que la vérité et la justice soient établies à leur place. Mais le mauvais cœur de l'homme, qui en est la cause, s'écrie contre la lumière, comme si la lumière les produisait. Alors que si l'homme pouvait demeurer calme et tranquille, et laisser la lumière agir en lui, il trouverait que la même lumière qui les découvre les purifierait aussi, et n'en laisserait ni racine ni branche d'iniquité, ni dans les cœurs des hommes, ni dans les relations, ni dans les familles, ni dans les bourgs, ni dans les villes, ni dans les lois, ni dans les gouvernements, et il n'y aurait aucun manque d'honneur. Or, bien que la sagesse du serpent soit irréconciliable, et que l'intelligence qui s'y tient ne puisse être satisfaite, mais doivent être confondues et réduites à néant un corps. 1:19 Pourtant, parce qu'au-dessous de tout cela il y a, chez certains, une simplicité qui est trahie, pour le soulagement de celle-ci on peut dire encore quelque chose en réponse à ces choses. Objection 1. À la première objection, selon laquelle ceci serait une voie nouvelle, ou une nouvelle lumière, je réponds réponse. Elle est nouvelle en effet pour ceux qui sont restés longtemps dans l'apostasie et ont établi une autre lumière, mais elle n'est pas nouvelle en elle-même. C'est la même qui était au commencement, oui, et même avant le commencement. Christ est le même hier, aujourd'hui et à jamais, et la lumière qui vient de lui est semblable, elle aussi est la même hier, aujourd'hui et à jamais. Elle était la même sous la loi, la même avant la loi, la même depuis la loi. De même que les ténèbres, tout au long, ont été les mêmes, de même la lumière, tout au long, a été la même aussi. Elle était la même chez les Juifs, et la même chez les gentils. C'est à cette lumière que Dieu attendait l'obéissance de la part des Juifs, et le prophète au nom du Seigneur dédaigne leurs sacrifices et les ramène à ceci, Michée 6:8. Il t'a montré, ô homme, ce qui est bon. Et qu'est-ce que l'Éternel demande de toi, sinon que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, et que tu marches humblement avec ton Dieu? Leur regard était tourné vers les sacrifices et l'huile, mais le prophète les dirige vers ce qui les conduirait au vrai sacrifice et à la véritable huile. Et les gentils, dans la mesure où ils obéissaient à cela, étaient acceptés et excusés dans leur propre conscience, le témoignage fidèle en est de Dieu, et il subsistera au jour de Christ. Rome 2:15-16. Ce qui était dès le commencement, dit l'apôtre Jean, nous vous l'annonçons. 1 Jean 1:1. Et voici le message que nous avons entendu de lui, et que nous vous annonçons, Dieu est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Verset 5. Et le but de la prédication de ce message est de faire sortir des ténèbres vers la lumière, d'amener les hommes à sentir en eux la lumière de Dieu, et ainsi à s'unir à elle, et lorsqu'on se tourne vers elle, elle attire hors des ténèbres. Dieu qui est lumière, est proche de tout homme qui est ténèbre, quoique le sens de l'homme soit très épais et qu'il puisse à peine le voir ou le sentir, et une lumière venant de lui brille dans les ténèbres de l'homme, mais les ténèbres de l'homme ne la comprennent pas. Ainsi cette lumière n'est pas nouvelle en elle-même, mais seulement nouvelle pour le vieil esprit, qui est demeuré longtemps caché dans la région des ténèbres et de la mort, et n'a pas connu la lumière de la vie. Christ la lumière était la nouvelle alliance prophétisée comme devant venir aux gentils, pour être le salut de Dieu jusqu'aux extrémités de la terre. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice, et je te tiendrai par la main, je te garderai, et je te donnerai pour alliance au peuple, pour lumière aux gentils. Ésaïe 42. 6 Ésaïe a vécu 778 ans avant la naissance de Christ. Il dit, « C'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis aussi pour lumière des gentils, afin que tu sois mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Ésaïe 49, 6, « Et les gentils viendront à ta lumière, et des rois à l'éclat de ton lever. » Ésaïe 63, « Une lumière pour la révélation aux gentils et la gloire de ton peuple Israël. » Luc 2, 32, « Car le Seigneur nous a ainsi ordonné, je t'ai établi pour être une lumière des gentils, afin que tu portes mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Actes 13, 47 que le Christ souffrirait et qu'il serait le premier à ressusciter d'entre les morts et à annoncer la lumière au peuple juif et aux gentils. Actes 26, 23 objection 2. Que ceci est une lumière naturelle ou la lumière de la nature du vieil Adam. Réponse en un sens, c'est une lumière naturelle, elle est de la nature de celui de qui elle procède, de la nature de Dieu et de son Christ pour qui elle se manifeste, mais elle n'est pas de la nature de l'Adam corrompu, qu'elle a toujours repris, et contre lequel elle demeure encore en témoignage, condamnant toute corruption. L'homme est ténèbre, et lorsque Christ vient le racheter, il le trouve ténèbre, et Christ ne trouve en lui aucune lumière qui l'aide à lui découvrir le péché, mais toutes les découvertes du péché qui se font dans le cœur se font par la lumière de Christ, et non par quelque lumière de la nature de l'homme. Le Seigneur est celui qui sonde le cœur, et il le sonde avec sa propre lampe, et non avec quelque chose qui serait resté dans la nature de l'homme. L'homme est tombé dans les ténèbres et ne savait pas où il était, mais le Seigneur vient après lui avec sa lampe et lui découvre son état. C'est la lumière dont l'homme est tombé et contre laquelle il pèche qui seule est capable de rendre sa désobéissance manifeste à ses yeux. Nous savons, dit l'apôtre, que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel. Rome 7, 14. La loi est la partie la plus basse de la lumière, et pourtant elle est spirituelle, et de la nature de Christ, et non de celle d'Adam, nous le savons, dit l'apôtre. Ceux qui connaissent la nature de ce qui manifeste le péché savent que c'est spirituel. C'est l'homme déchu de la lumière, l'homme dans les ténèbres, qui appelle la lumière ténèbres, mais ce qui découvre les ténèbres, reprend les ténèbres et fait la guerre aux ténèbres, ce n'est pas les ténèbres, mais la lumière de la vie. Et ceux qui sont spirituels, et en sentent la nature et la puissance dans leur esprit, savent qu'il en est ainsi. Mais l'homme s'est établi une lumière à lui, il a suscité une lumière par son étude et son invention, dans la force de la sagesse déchue. Et maintenant, ayant établi cela pour lumière, il doit appeler la vraie lumière ténèbres, comme les pharisiens appelèrent Christ. Puisque les faux prophètes n'ont jamais vu la lumière de Dieu, ils soutiennent que les références bibliques à la lumière renvoient à une lumière naturelle. Mais la Bible établit une distinction claire entre la lumière naturelle du soleil et de la lune, et la lumière de Dieu ou de Christ. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Et la ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine, et l'Agneau est sa lampe. Et les nations de ceux qui sont sauvés marcheront à sa lumière. Apoc 21, 22, 24. Le soleil ne sera plus ta lumière pendant le jour, la lune ne t'éclairera plus de son éclat, mais l'Éternel sera pour toi une lumière éternelle, et ton Dieu sera ta gloire. Ésaïe 79. Oui, les ténèbres ne te cachent rien, et la nuit brille comme le jour, les ténèbres et la lumière te sont l'une comme l'autre. PS 139 12 objection 3. Que cela rend les Écritures vaines et inutiles. Réponse : elle vient de l'Esprit qui a donné les Écritures, elle est de la même nature que la lumière qui brillait en ceux qui ont donné les Écritures. Elle dit la même chose que les Écritures, elle conduit à la même chose, et elle ouvre et rend témoignage aux paroles dont parlent les Écritures, et ainsi elle ramène les Écritures, longtemps abusées, à leur véritable usage. En effet, elle met fin à l'usage corrompu des Écritures, où l'homme invente et façonne des choses à partir d'elles, et les amène à leur vrai usage et service. Elle retire les Écritures de la main de l'homme, qui a par elle tué la vie, et les remet entre les mains de l'Esprit, qui rend de nouveau les paroles pures, vives et vivifiantes, purifiant les conceptions et interprétations souillées et mortes de l'homme. Un homme doit connaître l'Esprit, venir à l'Esprit, être uni à lui et en communion avec lui, avant de pouvoir avoir la véritable intelligence des Écritures. Les Écritures de vérité sont les paroles de Dieu, ou diverses expressions de sa pensée, et celui qui les scrute avant d'avoir son esprit ne peut les connaître. Ainsi l'homme, dans cet état, ne peut que deviner et imaginer les choses, mais ne peut voir la vérité. Et de là il vient que beaucoup de sectes et d'amas se sont levés dans le monde, selon la variété de leurs imaginations. Un type d'homme crie « Voici la voie, voici la vérité, voici l'Église, voici le culte ». Un autre crie « Ce n'est pas cela, c'est superstition et erreur, mais ceci c'est cela, puis un troisième, un quatrième, etc. » De même au sujet des Écritures, l'un dit que c'en est le sens et un autre dit que non, mais que c'en est un autre. Les papistes disent que l'Église doit juger du sens des Écritures, et les protestants, qui prennent plus de liberté, comme ils doutent, diffèrent et s'opposent les uns aux autres au sujet de l'interprétation des Écritures, ce qui montre clairement qu'ils ne labourent pas avec le bon bœuf, car alors il y aurait unité et certitude. Ils laissent aller leurs propres raisonnements et imaginations, et il n'y a aucun fondement de certitude. Mais s'ils avaient attendu l'Esprit dès le commencement, et n'étaient allés pas plus loin que ce qu'il leur ouvrait, tous ces doutes et ces dissensions auraient été étouffés dans la naissance, ou dans le sein, ou n'auraient pas atteint ni le sein ni la naissance. Cependant, je ne nie pas entièrement la lecture des Écritures, même dans cet état, si l'homme lit avec crainte et tremblement, sans ériger sa propre intelligence, ni celle de quelque autre homme, mais en attendant l'Esprit, qui seul peut lui donner une intelligence pour recevoir la vraie connaissance. Mais ceci, j'ose l'affirmer hardiment, la lecture des Écritures par les hommes dans leur propre sagesse et leur assurance de soi, ou l'assurance de l'interprétation donnée par d'autres ne leur fait aucun bien, mais beaucoup de mal, tendant à bâtir ce que Dieu détruira de nouveau. Mais celui qui commence avec l'Esprit de Dieu, se livrant à cette lumière qui vient de lui, vient à la vraie union avec Dieu, au sentiment de la vie, et ainsi à une vraie croissance et connaissance de l'Esprit de Dieu, par là il vient à connaître et à comprendre les Écritures qui viennent du même Esprit, et par là aussi il devient capable de mesurer la tromperie de son propre esprit, qui auparavant l'égarait, et aussi de voir et de mesurer les esprits des trompeurs. Mais celui qui est dans la tromperie, dans l'imagination, hors de la vraie connaissance, ne peut connaître la tromperie de son propre esprit ni les esprits des trompeurs, mais appelle la vérité tromperie et la tromperie vérité. En 1456, avant l'impression de la Bible, il y avait bien moins de 100 sectes dans la chrétienté. 500 ans plus tard, après l'étude de la Bible, il y a 41 000 sectes. C'est l'esprit charnel de l'homme, plutôt que le Saint-Esprit, qui gouverne l'apprentissage tiré de l'étude biblique, car le but du Saint-Esprit est d'avoir l'unité de la foi. Pourtant, il y a 41 000 sectes dans la chrétienté, chacune avec un ensemble de croyances différents sur ce que la Bible signifie réellement. C'est une preuve massive que l'étude de la Bible produit l'opposé de ce que désire le Saint-Esprit une seule fois et ne conduit pas à la vérité. Au lieu de l'étude biblique, nous devons être enseignés directement par le Saint-Esprit en écoutant, qui veut et promet de nous enseigner toutes choses. Jean 14, 26, objection 4, que cette lumière enseigne des choses contraires aux Écritures. Réponse : la lumière qui vient du même esprit que celui d'où sont venues les Écritures ne peut enseigner des choses contraires aux Écritures. Mais l'homme, qui a pris les outils de son intelligence et formé, à partir des Écritures, des images et des ressemblances, j'entends, inventer des significations et des sens, et juger ceci conforme aux Écritures, doit juger que ce qui est contraire à ces choses est contraire aux Écritures, tandis que la vérité est une en elle-même, et s'accorde avec tout ce qui est vrai en cet âge comme aux âges précédents, et ne diffère que de ce qui n'est pas vrai. Et nous savons qu'il y a cette véritable unité avec l'Esprit d'où sont venues les Écritures, et avec les Écritures, et entre nous, dans cette lumière que la sagesse de l'homme ne peut que mépriser, comme cela n'a été en aucun âge depuis l'apostasie jusqu'à présent. Objection 5. Que cela établit le libre arbitre. Lorsqu'on exhorte des personnes à embrasser la lumière, à laisser entrer la lumière, et qu'on leur dit que la condamnation vient de ne pas croire ou de ne pas recevoir la lumière, elle s'écrie alors, l'homme peut-il croire ? L'homme peut-il recevoir la lumière ? L'homme a-t-il le libre arbitre ? Réponse : la volonté de l'homme est liée, mais il y a liberté, puissance et affranchissement dans la lumière qui visite l'homme et vient pour le délier et le sauver. Et l'homme sans cette puissance goûte cette liberté, sans quelque chose qui le dégage du mal et l'en attire, mais étant amoureux du mal, il se retire de cette attraction, se bouchant les oreilles à la sagesse de la lumière et les ouvrant au raisonnement du serpent. Alors la liberté et la puissance qui étaient dans la lumière se retirent avec la lumière, et ses liens se resserrent sur lui. Et voilà la condamnation, non qu'il ait manqué de puissance venant de Dieu, mais qu'il a choisi la puissance de l'ennemi, n'aimant pas la lumière, où résidait la puissance de la vie. Dieu connaît l'état de l'homme dans la chute et connaît la force de l'ennemi, et le Sauveur qu'il envoie a une puissance suffisante contre lui, et la lumière que le Sauveur envoie est plus forte que les ténèbres, peut vaincre les ténèbres, et ne peut être vaincue par les ténèbres. Et si tu t'associes aux ténèbres, et ne veux pas céder aux attractions du Père, mais te livres aux attractions et raisonnements des ténèbres, néanmoins la force de la lumière demeure en elle-même. Et bien que, pour le moment, tu les abattues et tuées, elle se relèvera comme un témoignage fort et vivant contre toi et contre les ténèbres auxquelles tu t'es associé. Quand un homme s'éloigne de la lumière, il entre volontairement dans la volonté, alors il prend et choisit dans la chair. Quand un homme suit la lumière, la volonté de la chair meurt en lui, une autre volonté s'élève et choisit pour lui. Là est la vraie liberté. Mais quant à votre discours sur le libre arbitre, vous ne savez pas de quoi vous parlez, car la volonté, avec sa liberté, se tient soit dans l'image et la puissance de celui qui l'a faite, soit dans une image et une puissance contraire. Tant qu'elle est dans l'image et la puissance de celui qui l'a faite, elle est libre pour le bien et non pour le mal. Tant qu'elle est dans l'image et la puissance de celui qui l'a corrompue, elle est libre pour le mal et non pour le bien. La volonté n'est pas d'elle-même, mais se tient en un autre, et elle est servante de celui en qui elle se tient, et c'est là que sa liberté est liée et comprise. Car il n'y a pas d'état intermédiaire entre les deux, où la volonté se tiendrait d'elle-même et serait également libre pour l'un et pour l'autre, mais elle est servante et sous le commandement de l'une de ses puissances. Si elle est sous le commandement du péché, de la puissance des ténèbres, elle est libre à l'égard de la justice, et si elle est sous le commandement et la puissance de la justice, elle est libre à l'égard du péché. Mais un libre arbitre tel qu'on en parle communément n'est que pure imagination et n'a aucun fondement dans le véritable état des choses. Et ceci peut répondre à une autre objection, qui est pour beaucoup comme un grand obstacle sur le chemin. Ils sentent une conviction, mais sont retenus d'obéir sous prétexte de manquer de puissance, alors que la puissance se trouve dans la lumière qui convainc et se reçoit dans l'obéissance et dans la croix. De même que la puissance de l'ennemi s'insinue en l'écoutant, de même la puissance de la vérité se reçoit en écoutant et en accueillant les réprimandes de la vérité. Ce qui freine le mal, ce qui se dresse contre l'esprit en le frappant dans sa course de vanité et de plaisir dans l'état déchu, c'est là que se trouve la puissance. Cela vient de la puissance, s'exerce dans la puissance, et la puissance est en cela et ne peut en être séparée. Ainsi celui qui laisse entrer cela laisse entrer la puissance, et celui qui le rejette rejette la puissance. Et dans cet état, un homme peut se plaindre tous les jours de sa vie du manque de puissance sans jamais la rencontrer, car comment le pourrait-il, puisqu'il la refuse de la manière même dont la puissance le cherche, et qu'il l'attend d'une manière où elle ne se trouve pas. L'apparition de la puissance au commencement est petite et méprisable aux yeux de la sagesse charnelle, et elle n'est pas reçue d'une manière si grande et si irrésistible, bien que cela aussi soit connu ensuite que l'homme est porté à l'attendre, mais tout repose dans une petite semence, où l'on connaît le jour des petits commencements. La lumière, la vie, la puissance, la pureté, la sagesse, etc., y sont cachés, et en recevant cette petite chose, on reçoit tout, et dans sa croissance, tout grandit. Mais tenté par l'ennemi de négliger cela et d'attendre quelque grande puissance et manifestation de Dieu, l'âme est tenue dans les liens de l'iniquité et maintenue loin de la vie aussi sûrement que par la forme la plus grossière. Objection 6. Que cela établit une alliance des œuvres, car on dit à l'homme de faire, on lui dit d'obéir à la lumière, et quand il fait, quand il obéit, il a la paix, et quand il n'obéit pas, il n'a pas la paix. Réponse : cela n'établit pas les œuvres de la loi, mais cela conduit, à travers les œuvres de la loi, à la justice de la foi. Quand le commandement est venu, le péché a repris vie, et moi je suis mort, Rome 7-9. L'apôtre était vivant dans son culte et son état juif jusqu'à ce que la loi vienne, mais lorsque la loi vint, elle tua cette vie qu'il avait là, et il devint mort tant à cette vie par laquelle il vivait auparavant qu'à la loi qu'il avait tuée, et alors une vie s'éleva en lui, qui répondait à la loi, pouvait l'accomplir, et conduisait à une justice au-delà d'elle. Alors sa vie et sa justice n'étaient pas des œuvres de la loi, mais de la foi, et dans la foi. Galates 2:19-20. Toutefois, il n'y a pas de passage à cela autrement que par l'administration de la loi dans le cœur, dans la main du médiateur. Quand la vie est ressuscitée et reçue, même alors il n'y a pas de paix en dehors de l'obéissance à la vie. La paix vit dans ce qui apporte la paix, et s'il y a éloignement de cela, il y a éloignement de la paix. Toute pensée charnelle, tout mouvement charnel, comme il est hors de la vie, est aussi hors de la paix, et l'esprit qui s'y attache en ressent la mort et le trouble. Ainsi dit l'apôtre, Galates 6:15-16. Ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais une nouvelle créature. Et à tous ceux qui marcheront selon cette règle, paix sur eux. La paix vient à la nouvelle créature, et à l'homme marchant selon la règle de la nouvelle créature, et il n'y a point de condamnation pour ceux qui ne marchent pas selon la chair, mais qui marchent selon l'esprit. Rome 8:1. Mais s'il y a une écoute de la chair et un accomplissement de son injustice en quoi que ce soit, Dieu est juste, et par conséquent il ne peut parler de paix aux méchants, ni à celui qui s'associe aux méchants. Ainsi, là où il y a une vraie paix, il faut sortir de la nature méchante et vivre hors de la nature méchante, en celui qui est la vie, la justice, la paix. Je sais qu'il y a eu dans l'esprit des hommes des constructions subtiles au sujet de l'alliance de grâce, mais ils n'en ont pas connu la nature, ni celle des œuvres qui en découlent, et sont donc enclins à appeler œuvres de l'ancienne alliance les œuvres de la vie nouvelle, jaillissant de l'alliance de vie. Mais la sagesse est justifiée par ses enfants, et ils connaissent sa naissance. Dans la vraie lumière, on voit la vraie nature des choses, et l'on donne le vrai nom et la vraie description, que celui qui est hors de la lumière ne peut recevoir, mais sur lesquels il trébuche. Plus il est sage, dans sa voix et sa connaissance inventée, plus il a de pierres d'achoppement, et plus il trébuche. Objection 7. Et dernière, qu'elle renverse les liens familiaux, les lois, les gouvernements, ôte le respect dû à la magistrature et aux supérieurs, et met le monde sens dessus-dessous. Réponse : l'iniquité a régné, l'injustice s'est insinuée et s'est entortillée autour de toute chose. Et maintenant la vérité vient pour découvrir et purifier l'iniquité, l'homme fort, qui jusque-là tenait la maison en sa possession, crie comme si c'était la destruction de la chose qui était visée contre lui. Non, ce n'est que le mal qui est visé, mais la chose elle-même ne doit pas être détruite, elle doit être libérée du mal et préservée. Les relations sont bonnes, les lois sont bonnes, les gouvernements sont bons de Dieu, mais l'injustice de la chair, le fait de plaire à la chair sous le prétexte de ces choses, le fait de donner liberté à l'injuste, cela n'est pas bon. Et n'en est-il pas ainsi dans les relations, dans le gouvernement, dans l'exécution des lois? Si un homme veut être charnel et y marcher selon la chair, la loi ne s'empare pas de lui, ses proches ne s'offensent pas de lui. Mais s'il vient une fois à sentir la puissance de Dieu, se retire du mal et se dresse en témoin pour Dieu contre le mal, alors les proches, les puissances de la terre et les lois frappent tous contre lui. Et la raison en est qu'ils sont en union avec le mal, et ne peuvent donc supporter que le mal soit arraché de la chose. De là vient que partout où l'Évangile vient avec puissance, il allume une flamme alentour, mettant le Père contre le Fils, et le Fils contre le Père, le mari contre la femme, et la femme contre le mari, etc. Oui, il va plus près encore. Ils mettent une partie de l'homme contre une autre, et le combat est très âmé et très vif jusqu'à ce que l'une des deux soit soumise, et alors il y a la paix. Une paix charnelle, si la partie sage et charnelle l'emporte, une paix spirituelle, si la chose faible et folle aux yeux du monde, dans le cœur qui est de Dieu l'emporte. Quant à l'honneur rendu aux magistrats et aux supérieurs, il n'est pas nié, mais l'honneur charnel, l'honneur corrompu, l'honneur provenant de la partie charnelle et rendu à la partie charnelle, cela ne peut qu'être refusé par ceux qui sont de Dieu. Ce qui est né de Dieu n'est pas de ce monde, et ne peut rendre honneur à ce qui est de ce monde, mais il honore tous les hommes dans le Seigneur. Tout ce qui est de Dieu, dans la magistrature, il l'honore. Tout ce qui est dans la supériorité selon Dieu, comme un père, un mari, un maître, il l'honore d'un vrai honneur. Christ, l'unique engendré de Dieu, ne pouvait recevoir l'honneur des hommes, ni donner l'honneur aux hommes, et il dit aux Juifs, « Comment pouvez-vous croire, vous qui recevez la gloire les uns des autres, et ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ? Recevoir l'honneur de l'homme ne peut subsister avec la vraie foi, quand vous connaîtrez la foi, vous le saurez. Celui qui fait acception de personne commet un péché et transgresse la loi de la foi, qui conduit à la vie qui se tient en Dieu, hors des honneurs, cultes, coutumes du monde, et de tout ce qui n'est pas de la foi, mais du monde. Mardochée ne se prosterna pas devant Amant, non, il était assis à la porte du roi, là où Amant devait passer, et pourtant il ne se leva pas, ne bougea pas, ne se courba pas devant lui. Quelle offense pour cet esprit, ô orgueilleux, altier, pourtant cela venait du Seigneur. C'était une figure, comme l'État juif en général était une figure, de ce que Dieu ferait dans le monde, et de ce qu'il fait maintenant. Le Seigneur a suscité la nature de Mardochée, et il a dévoilé la nature de Haman, et il a donné l'ordre à Mardochée de ne pas se prosterner devant Haman. Si vous pouviez sonder vos cœurs, vous trouveriez que ce n'est pas ce qui est de Dieu en vous qui s'offense du manque de ce que vous appelez honneur, mais l'esprit d'Amant, l'orgueil et la hauteur charnelle, que le Seigneur abaissera, et lui seul sera exalté en ce jour de sa grande puissance. L'homme ne sera honoré qu'à mesure qu'il vient de lui, et qu'il est trouvé en lui, mais l'honneur que la partie charnelle a recherché, et acquis dans la transgression tombera avec le transgresseur, que le Seigneur a poli son épée pour frapper. Quant à mettre le monde sens dessus-dessous, c'est reconnu, la puissance du Seigneur est sortie pour le faire. Ce qui est élevé, ce qui est sage, ce qui est fort, ce qui est riche, ce qui est plein, ce qui est gras, le Seigneur l'abaissera, le rendra insensé, faible, pauvre, vide, maigre, car cela agit dans la méchanceté. Il fera paître les bêtes grasses, et fortes par ce jugement qui les rendra maigres et faibles. Les humbles, les insensés, les faibles, les pauvres, les vides, les maigres, il les relèvera et les rendra sages, forts, riches, pleins et gras, d'un vrai honneur, d'une vraie sagesse, d'une vraie force, de vraies richesses, des miséricordes sûres et vivantes de David, lui qui met ses pieds sur les sommets des hauts lieux de la terre, de qui Christ est issu selon la chair. Ainsi, avec simplicité de cœur et simplicité de parole, je vous ai placé devant les yeux la vérité et l'erreur, et j'ai prêté la main à ôter quelques obstacles qui se trouvaient sur votre chemin, par amour et compassion pour vos âmes. Maintenant, si certains, en lisant ceci, sentent un attouchement secret sur leur cœur, les réveillant et donnant quelques témoignages à la vérité, quoique très petite et sous une couverture épaisse et sombre, il y a là ce à quoi je parle, il y a le témoin à l'intérieur du voile, et il y a le témoignage qui se lève et qui conduit à la vie, si l'on y prête attention. Tenez-vous-en à cela, et cela piquera et blessera, jugera et condamnera la nature contraire, quelque forte qu'elle soit. Lorsqu'il pique et blesse, gardez la blessure fraîche et ouverte comme vous aimez votre vie, jusqu'à ce que vous rencontriez le véritable guérisseur. Car le faux prophète s'élèvera en vous et vous remplira de raisonnements, et peut-être d'une multitude de promesses et de consolations tirées de l'Écriture, recouvrant la blessure et criant « Paix, paix » alors qu'il n'y a point de paix. Et quand vous aurez ainsi surmonté le trouble, alors le faux prophète qui vous a porté cette paix vous excitera contre le témoin, exaltant la sagesse et les raisonnements de la chair, et se réjouissant avec vous aux dépens du témoin, qui rendait témoignage contre vous et contre lui, et du trouble qui en venait, et cela vous conduira à cet endurcissement de cœur qui est pour la destruction. Quand vous aurez tué le témoin en vous-même et exalté votre raison et intelligence charnelle au-dessus de lui, alors le faux prophète qui vous a séduit allumera en vous un zèle contre le témoin chez les autres, et vous vous prouverez persécuteur de la vie, sous le nom de tromperie, d'erreur, d'hérésie et de blasphème, alors que vous êtes vous-même tombé dans la tromperie, dans l'erreur loin de la vie, et dans le blasphème contre elle, et que vous êtes dans la nature de Caïn, et que vous manieriez volontiers les armes de Caïn pour la détruire. Prenez donc garde à la sagesse charnelle, prenez garde à votre propre intelligence, prenez garde à vos raisonnements ou à vos disputes, car ce sont les armes par lesquelles le témoin est mis à mort. Cette sagesse doit être détruite, cette intelligence réduite à rien, et vous devez devenir un enfant et apprendre comme un enfant, si jamais vous connaissez les choses de Dieu. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Ont-ils jamais, depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, atteint la connaissance des choses de Dieu? Où sont les conciles? Où sont les grandes convocations? Où sont les synodes? Où sont les assemblées de savants en grec, en hébreu et en latin? Qu'est-il advenu de tout cela? Qu'ont-ils fait? Ont-ils jamais été capables de conduire hors de l'apostasie, de la vérité, pour revenir à la vérité? Non, cette sagesse est maudite, elle est de la terre, fixée dans la terre, et elle est le grand ennemi de la sagesse d'en haut, et là où cette sagesse se tient, il n'y a pas d'entrée pour l'autre. C'est ce qui rendait si difficile à ce genre de personnes, en tous âges, de reconnaître la vérité. Votre sagesse et votre connaissance vous ont perverti. C'est ce qui rendait l'esprit prostitué si capable d'employer sorcellerie et enchantement contre la vie dans tous âges. Et il est plus facile aux publicains, aux prostituées, aux ivrognes, aux jureurs et à toutes sortes de pécheurs de reconnaître la vérité et d'entrer dans la vie qu'à ceux-là. Car il est plus facile de les vider de leur profanation que de vider ceux-ci de leur religion et de leur dévotion établies et présomptueuses. Et pourtant ceux-ci, avec leur religion et leur dévotion, ne peuvent entrer pas plus que les autres avec leur profanation. Vous avez une connaissance, une justice, une espérance, une foi, etc., fondée sur votre prétention aux Écritures. Qui pourrait ébranler cela, dites-vous, et pourtant cela doit tomber, avant que vous puissiez bâtir sur et grandir dans la vie dont les Écritures sont issues. Car les Écritures n'ont pas été données pour que les hommes en tirent et y posent, selon leur propre volonté, un fondement de foi, mais pour découvrir et rendre témoignage au fondement. Et celui qui vient là et qui est bâti là connaît la vérité, non parce que les Écritures le disent, mais parce qu'il sent la chose, est fondé sur la chose, grandit dans la chose, et la chose en lui, de quoi l'Écriture parle. Et cette connaissance demeurera, et cette foi, et cette justice, et cette sainteté, et cette rédemption, alors que l'autre n'est qu'un nom, donné à ce qui n'est pas la chose. Ce sont des paroles précieuses et fidèles, quoique par un instrument affaibli, et faible au-delà de mesure, et heureux celui qui a une oreille pour les entendre, mais malheur de la part du Seigneur à l'œil qui se ferme, à l'oreille qui se bouche, au cœur qui s'endurcit, dans les inventions et imaginations de l'esprit charnel de l'homme, contre la vérité de Dieu. Que le témoin de Dieu en vous s'éveille et parle, il me répondra maintenant. Mais si vous, par la force de la chair et les vaines imaginations que vous chérissez dans votre cœur, étouffez maintenant sa voix, je sais pourtant qu'il me répondra un jour, mais alors, il sera trop tard pour vous de l'entendre. Le Seigneur est maintenant doux et tendre, vous poursuivant de son amour et vous suivant partout de sa lumière. Bien que vous fuyiez loin de lui dans le péché et la transgression, et que vous écoutiez la sagesse de la chair, sa voix vient encore après vous pour vous ramener. Si vous voulez entendre et simplement vous abandonner à lui, il ne vous mettra à faire quoi que ce soit, mais il soumettra tous vos ennemis pour vous. Oui, il tuera en vous la sagesse serpentine, avec toutes ses inventions, et il brisera tous les enfants de Babylone contre les pierres, sans pitié pour eux, mais avec grande pitié pour vous. Mais si vous refusez, et choisissez le plaisir de la chair et les grossières marmites de l'Égypte, et détournez votre oreille de sa voix, cédant au raisonnement de la chair et tenant le témoin abaissé, le jour de colère et de sévérité, dont toutes les Écritures ont parlé, viendra, et vous aurez votre part avec les hypocrites qui, en tous âges, se sont couverts d'une forme de religion agréable à la chair et au monde, mais ont retenu leur cœur loin de la puissance de la vie. Estimez donc l'amour de Dieu pour vous, qui vous donne cet avertissement, et ne soyez pas incirconcis de cœur et d'oreille, comme cette génération de professants l'a toujours été, mais laissez Christ régner dans votre cœur, qu'il foule sous ses pieds toutes les formes inventées par l'homme de connaissance et de culte, et livrez-vous à être conduit par lui dans la vraie connaissance et le vrai culte, en esprit et en vérité. Et maintenant, vous dont le cœur est touché et convaincu de la vérité, et qui sentez s'allumer en vous quelques désirs du Dieu vivant, une faim et une soif de sa justice, remarquez ces trois choses que j'ai sur le cœur de vous dire à titre de conseil. 1. Connaissez et prenez votre croix, la croix de Christ, la croix quotidienne de Christ. La croix de Christ est ce qui contredit le naturel, et c'est la puissance de Dieu pour délivrer du naturel. comment l'intelligence terrestre, la volonté terrestre, les affections terrestres, avec la nature élémentaire, qui ont eu libre cours sur la terre, pourraient-elles être crucifiées et mises à mort, sinon par la croix de Christ ? Celui donc qui veut une religion pour se plaire en quoi que ce soit ne doit pas venir ici, et celui qui, après être venu ici, admet quelque chose qui plaît au terrestre et s'écarte de la croix, qui le nierait et s'en détournerait autant qu'il le fait, il recule et n'avance pas. Il n'est pas étonnant qu'il y ait une telle inimitié chez toutes sortes de personnes contre la vérité, car elle frappe leur vie, oui, la racine même de leur vie. S'il était présenté quelques voies nouvelles ou quelques formes nouvelles de religion, les intelligences et affections des hommes pourraient peu à peu y être travaillées et y trouver plaisir. Mais ceci la croix du renoncement à soi et la mort directe de cette nature et de cet esprit qui ont vécu dans quelque forme de religion, et de tout le cours de cette nature et de cet esprit, et pourtant par cette mort, la vraie vie jaillit en ceux qui reçoivent ces coups. Soyez donc consentants, apprenez à mourir chaque jour, et amenez à la croix tout ce qui est contraire à Christ. Renoncez à vous-même en tout, prenez la croix en tout, suivez Christ en tout. C'est la voie que Christ lui-même prescrit pour devenir ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour, et qu'il me suive. Ne cherchez pas l'aisance dans la chair, non, pas le moins du monde, mais prenez la croix chaque jour, en toute chose, jusqu'à ce que l'esprit terrestre en vous soit mis à mort, jusqu'à ce que la sagesse et la force de la chair soient entièrement soumises, et alors la sagesse et la puissance de Dieu deviendront naturelles. 2. Tenez-vous au sens, tenez-vous au ressenti, prenez garde à l'intelligence, prenez garde à l'esprit imaginatif et concevant. Ceux-ci ne peuvent être pour Dieu, ni produire quoi que ce soit pour Dieu, jusqu'à ce qu'ils soient refondus et remodelés. L'unique semence de vie se trouve dans l'invisible, dans l'homme caché du cœur, parmi une multitude de semences de mort, qui toutes croissent et tirent leur force dans le naturel corrompu, de sorte que cette semence ne peut germer dans quelque partie du naturel sans que les autres semences germant avec elle aient s'efforcent de l'étouffer. Or les autres semences se lèvent de deux manières, soit par opposition contre la vraie semence, soit par imitation. Il ne peut entrer dans l'intelligence ou la volonté une pensée bonne, un désir bon, ou un rayon de lumière, sans qu'une multitude de mauvaises pensées, de mauvais désirs, ou de raisonnements charnels contre cela ne se lève avec lui et ne s'efforce de le dominer. Et si l'ennemi est finalement vaincu par la puissance de Dieu combattant contre lui et le terrassant, alors il a son vêtement de lumière, alors il introduit des pensées et des désirs, et des mouvements semblables à ceux de Dieu, qui passent aisément pour bon, si l'âme ne se tient pas étroitement en veille. L'intelligence empressée est portée à les reconnaître comme siens, et la volonté empressée à les embrasser, et les affections empressées à se répandre en eux, jusqu'à ce que l'âme en vienne à sentir une perte de vie, à manquer la puissance et la présence de Dieu, et à trouver l'ennemi de nouveau fort. Oui, l'ennemi a encore une voie plus subtile, à savoir susciter des mouvements semblables aux mouvements de l'Esprit de Dieu, et soudain, avant que la lumière en ait donné le discernement, susciter des oppositions et des raisonnements contre eux, afin que, par l'opposition manifestement mauvaise, le mouvement lui-même, qui est aussi mauvais quoique d'une bonne apparence, soit moins suspecté et avalé. Or l'unique voie de sécurité est de demeurer hors du naturel, dont l'ennemi a la possession et où réside sa force, et de demeurer dans le sens et le ressenti de la semence invisible, et de ne sortir avec elle dans le naturel que dans ce sens et ce ressenti. Et quand elle viendra avec une force supérieure à la force que l'ennemi a dans le naturel, et peu à peu le vaincra. Mais ne vous reposez, ni ne demeurez en aucun cas dans le naturel. Retirez-vous avec le Seigneur, qui n'y habitera pas tant qu'il n'est pas purifié dans le lieu de repos. Ces paroles peuvent vous être dures pour le présent, mais plus tard, à mesure que vous entrerez dans l'exercice, vous les sentirez. Et c'est la raison pour laquelle la partie formelle et extérieure de la religion dévore si communément la vie, parce que les choses qui s'y trouvent sont convenables à cette partie où réside la force de l'ennemi, et l'exerce, et il ne peut jamais y avoir de liberté et de sécurité parfaite tant que cette partie n'est pas soumise, et que tout ce qui appartient à cette partie n'est pas ôté. Le Seigneur s'est levé pour ébranler, afin que le royaume qui ne peut être ébranlé paraisse, et heureux ceux qui sont ébranlés par sa main en tout ce qui est extérieur, et établi dans la vie intérieure, la puissance intérieure et le repos intérieur, qui demeurent à jamais et ne peuvent être ébranlés. 3. Attendez patiemment le bon moment du Seigneur. Ne vous hâtez pas d'obtenir la vie et le salut par la volonté de la chair, mais laissez le Seigneur choisir lui-même le temps où il fera pleuvoir sa miséricorde et sa bénédiction. Le Seigneur n'accueillera pas aussitôt dans son sein cet esprit qui s'est détourné de lui, se prostituant à des étrangers et se souillant. Il faut un temps de tristesse, un temps de purification et de nettoyage. L'âme doit savoir et sentir qu'elle a commis une chose mauvaise et amère, qu'elle a abandonné le Seigneur, la fontaine vivante des miséricordes vivantes, et qu'elle a cherché la vie dans les vanités et parmi des idoles mortes. Et toutes les idoles doivent être jetées, et le cœur lavé de cette nature qui courait après elle, afin de devenir une vierge pure, pour porter et mettre au monde la semence vivante, et par la fidélité à cette semence, et en attendant dans cette semence, au moment du Seigneur elle recevra la miséricorde, la bénédiction et l'héritage qui appartiennent à cette semence. Le laboureur ne moissonne pas aussitôt mais attend longtemps, jusqu'à ce que la semence soit parvenue à maturité. Jacob, figure de la semence, a dit « Ô Seigneur, j'ai attendu ton salut ». C'est l'élection qui obtient, c'est à la semence, et à cause de la semence que la miséricorde est accordée, et il faut attendre jusqu'à ce que la semence ait grandi, soit parvenue à l'âge, et soit capable de défendre sa part contre son frère aîné, qui autrement serait prêt à la saisir et à la gaspiller de nouveau avec des prostituées. C'est pourquoi restez tranquille, et portez l'indignation du Seigneur contre ce qui a transgressé, jusqu'à ce qu'il le juge, en délivre, et conduise dans l'innocence et la justice, et alors il trouvera un temps pour se lever, plaider la cause de l'innocent, et donner la couronne de la vie immortelle à ce qu'il y a préparé. Ne pensez donc pas la course trop longue, ni la bataille trop dure, et ne vous lassez pas des afflictions et des châtiments sur le chemin, mais suivez le capitaine, le guide, le chef, dont la lumière, la force, le courage et la sagesse vaincront tout, et conduiront l'âme qui demeure en lui jusqu'à son propre trône. Or, comme vous attendez ainsi, portant la croix et demeurant dans le ressenti, la nature corrompue, la nature, le mortel, en lesquels le trône et la puissance de Satan se sont trouvés, se flétriront, dépériront et s'affaibliront chaque jour, et la tendre plante de Dieu, la semence immortelle, jaillira et gagnera de la force chaque jour, et vous parviendrez à une volonté en Dieu et à une intelligence en Dieu, et ce qui est de Dieu se manifestera, et vous en viendrez à connaître, désirer et à prendre plaisir aux choses de Dieu. Alors l'âme, qui est immortelle, en viendra à entendre, à recevoir et à se nourrir de la parole immortelle, qui est le pain de vie, et qui seule est capable de conserver et de nourrir jusqu'à la vie éternelle. Alors vous saurez ce que c'est que de trembler devant cette parole, et de voir toutes les puissances de la nature se fondre et défaillir devant elle. Alors vous connaîtrez la foi qui donne la victoire, et la connaissance qui fait entrer dans la vie, et la crainte qui garde le cœur pur, et l'espérance qui ancre l'âme immortelle dans le Dieu immortel, et la patience qui remporte la couronne. Ainsi vous en viendrez à tester les diverses conditions des saints dans l'Écriture à mesure que vous y grandirez, et vous n'aurez pas besoin que des hommes vous donnent le sens des Écritures à partir de leurs études de cerveau, de leurs arts acquis et de leur entendement, mais vous en connaîtrez le sens par la chose elle-même dans votre propre cœur, et vous entendrez les paroles de la voix vivante de cet esprit qui les a d'abord prononcées, lui seul étant capable d'interpréter sa propre pensée et d'ouvrir les paroles qu'il a lui-même dites. Alors vous connaîtrez et aimerez la vie et n'aurez plus besoin d'exhortation pour quitter toutes les formes mortes, corrompues et corruptibles, qui ont toujours été et seront toujours ennemies de la vie et traîtresses envers elle. Ainsi la paix de Dieu, le repos de Dieu, le vrai sabbat de Dieu, la lumière et la vie éternelle Dieu deviendront vôtres, et vous en jouirez au-delà de toute contestation ou dispute en vous, tandis que l'entendement naturel chez d'autres raisonne, lutte et dispute à leur sujet, mais ne peut jamais connaître, tant qu'ils se tiennent à l'écart de la chose intérieure, car cet esprit-là n'est pas l'héritier, et ne peut hériter du royaume de Dieu. Post-scriptum à ceux qui ont eu du sérieux et de la profondeur dans leur religion, qui ne pouvaient s'asseoir dans des formes vides et des ombres des choses, mais pressés vers la substance vivante, et l'ayant manqué par erreur de jugement, le vrai n'étant pas fixé dans la tête, en sont venus à une perte, et sont ainsi retournés à l'ancienne nature, envahis par elle et endurcis en elle, et ont pris un repos et un centre pitoyable dans la terre, ayant laissé tomber la poursuite de leur esprit vers le vrai centre de repos dans la vie. Il y avait un esprit, une âme ou une image de Dieu, produite et se tenant dans sa vie avant la chute. Cette âme a été entraînée dans la mort, sous le fardeau et la servitude de la corruption, hors de son centre propre et de son lieu de repos par la chute. Or, de même qu'il y a dans cet état une véritable perte, il y a aussi dans cet esprit une sensibilité, un gémissement sous le fardeau, un ressenti de l'amertume de la captivité, et un soupir après la rédemption et la restauration dans son état premier. Or, bien que la partie prostituée, qui a séduit loin de la vie, fasse grand bruit dans la chair au sujet des paroles des saints, et tente au plaisir de la partie extérieure, et au plaisir de l'esprit, et entraîne vers des formes et un culte religieux, et forge de profonds centres de satisfaction dans l'entendement, peut-être à partir de véritables ouvertures de la vie, qu'elle éteint et cherche ainsi à apaiser l'âme et à étouffer le cri. Néanmoins, l'état de perte demeurant l'âme n'étant pas véritablement rachetée, mais un faux repos étant. Car l'âme, par quelque imagination, notion ou sentiment d'un centre dans l'esprit corrompu, ne peut être guérie ni restaurée, mais seulement si la vraie vie y est de nouveau relevée, et si elle-même est ramenée à sa place et demeure propre dans la fontaine de vie. Il y a eu, dans les secousses de cette nation, de grands remuements, la semence jaillissant et de grandes ouvertures à la semence, l'esprit de prophétie s'est élargi en nous, au-delà de ce que beaucoup de nos pères ont ressenti, mais le chemin vers la source de la vie n'a pas été connu, là où se trouve la préservation. Ainsi la partie prostituée, la partie corrompue, l'entendement qui n'avait pas été purifié et soumis à la vérité, cette prostituée a saisi les ouvertures et les prophéties du véritable esprit, en a été enceinte, et a enfanté des enfants pour la chair, enfantant une appréhension plus intérieure des choses, un genre de connaissance plus spirituelle, comme « Dieu est tout, tout est bon, et en Dieu, et tout péché et tout mal y sont abolis, etc. » Ce qui se centre la forme, pour ainsi dire, l'esprit charnel en lui, comme cela n'avait pas été connu auparavant. Et maintenant la rédemption est oubliée, les soupirs après la vie sont tués, et la chair peut se coucher tranquillement dans l'état non racheté et dire « c'est sa volonté, c'est bon », et elle peut s'y reposer satisfaite dans cette volonté sienne qui est bonne. Ainsi a surgi la grande abomination issue de la chair subtile, qui a rendu main cœur désolé, privé de très précieux jaillissements et bourgeonnements de la vraie vie et de la puissance de Dieu. Mais après cette grande perte et cette trahison de la vie en eux, il a plu à Dieu de la relever en d'autres, et de révéler le marteau, l'épée, le feu, qui peuvent abattre, retrancher et consumer cette partie prostituée. Et c'est là que la prostituée est conduite lorsqu'elle vient trahir encore, et que les jaillissements de la vie se retirent, et demeurent en sûreté dans le centre, tandis que la prostituée brûle. Lorsque la prostituée est brûlée, l'héritier se lève, et l'esprit, qui est la part de son héritage, descend et repose sur lui, et c'est par là qu'il est connu, et ce qui est en union avec lui le connaît. Donc, si vous voulez vivre, venez à ce marteau, à cette épée, à ce feu que la chair redoute, et livrez la chair à cela, et ne méprisez pas le jour des petites choses en attendant quelque grande apparition, mais reconnaissez-le dans son plus faible coup, car sa puissance de rédemption y est aussi véritablement que dans sa plus grande manifestation. Que celui qui a une oreille entende, et son âme vivra. Que ceux donc que cela concerne considèrent leur voix, comme la grâce qui m'est apparue m'a appris à le faire, et éprouvent ce fondement sur quoi ils se tiennent, afin qu'ils ne tuent pas ce qui est ouvert, et ne vivent pas dans des ouvertures mortes, et qu'ainsi à la fin, ils ne deviennent pas sombres, vaporeux, secs, flétris, tournoyants et retournant vers la terre, celle-ci redevenant leur repos et leur fondement, et qu'ils ne perdent ainsi les joies que jadis l'ouvreur ouvrait. Beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner avec moi, et mon désir pour eux est qu'ils puissent aussi témoigner du retour à ce qui alors s'ouvrait, et vivre dans l'ouvreur, et être préservés par lui d'abuser encore de ces précieuses ouvertures. Car bien que j'eusse un vrai goût de la vie et de la puissance venant de Dieu, pourtant ne connaissant pas le fondement, il ne pouvait y avoir de véritable édifice avec cela. Ainsi l'esprit fut éteint, la vie gaspillée, la part dépensée avec des prostituées, le vrai pain perdu, et l'on se nourrit de balles et de cosses sans la moindre satisfaction pour l'âme. Et le sentiment de cela, lorsque l'esprit du Seigneur m'éveilla, faillit m'accabler. Oui, les liens de la mort s'étaient tellement resserrés sur moi, et l'esprit du monde s'était emparé de moi avec une telle force, que je trouvais mon retour très difficile. Oui, lorsque des paroles vivantes d'espérance m'étaient mentionnées, pour me ramener à ce principe de vie dont j'étais sorti, je ne pouvais rien recevoir, mais je criais « impossible, impossible, impossible ». Je me sentais comme un arbre deux fois mort, déraciné, sans capacité de vie, de sensation ou de mouvement dans l'être éternel. Mais enfin il plut à la vie de se mouvoir d'une manière basse au milieu des puissances des ténèbres dans mon cœur, et en m'abaissant hors de la sagesse, hors de la raison, hors de toute autre imagination, et en me confiant à elle, bien que je ressentisse de terribles coups et oppositions de la part des puissances des ténèbres, pourtant à la fin, il y quelque apparition du libérateur, d'une manière si pauvre, basse, faible et méprisable qu'elle n'aurait jamais été acquise si l'âme n'avait d'abord été conduite à la détresse astérisque et si l'or. Puis, en sortant de là vers le ressenti, dans une autre part, il y eut une semence qui germa en un enfant, et à mesure que l'enfant grandit et se nourrit du lait de la parole immortelle, je vis, et je suis fortifié en lui, et je suis chaque jour affaibli dans cette partie qui vivait auparavant. Ce sont des paroles vraies, venant d'un cœur honnête, pour le soulagement de ceux qui peuvent avoir été pris dans le même piège. Astérisque de la parole du Seigneur au-dedans, nul ne peut venir à moins d'avoir d'abord vécu une expérience qui brise la vie. Un témoignage d'une grande importance pour tous ceux qui se disent chrétiens, mais n'ont pas connu la véritable Église, de laquelle seul le vrai chrétien peut naître. Il y a eu une grande guerre entre la femme et sa semence, et la prostituée et sa semence, depuis le commencement jusqu'à ce jour, et chacune a eu ses victoires dans la guerre. La femme et sa semence ont été rendues fortes en Dieu pour conquérir certains territoires de la mort et établir leur vie dans le monde. Ainsi, dans l'État juif, Dieu prépara un ciel et une terre pour la femme et sa semence, et lorsque ce ciel et cette terre furent ébranlés, il prépara un ciel et une terre plus glorieux dans l'État chrétien. Or, à peine l'Église et sa semence furent-elles établies dans l'un ou l'autre de ces lieux, que le dragon fit la guerre contre elle, et dans la guerre, il lui fut donné pouvoir de lui reprendre sa place. Ainsi le diable prit possession de l'État juif, de sorte qu'il n'y avait plus de place pour la véritable Église, mais tout était dans l'idolâtrie et la corruption, et le Seigneur n'était pas servi par leurs cérémonies, par leurs sacrifices, par leurs sabbats, par leurs nouvelles lunes, par leur culte du temple, etc. C'était plutôt le diable qui était servi. Le diable prit aussi possession du ciel et de la terre dans l'État chrétien, de sorte que, dans leurs ordonnances, et dans leurs cultes, dans leurs devoirs, dans ce qu'ils appellent leurs églises, Dieu n'a pas été adoré en vérité, mais le diable, pendant ces nombreux siècles. Car remarquez, qui est-ce qui est entré dans le temple de Dieu? N'est-ce pas l'Antéchrist? N'est-ce pas l'Esprit de Satan? 2:4. Et qui est-ce qui a été adoré dans le monde entier, à qui il fut donné pouvoir sur toutes tribus, langues et nations, et que tous les habitants de la terre adorent, n'est-ce pas le dragon rêve? 13:7-8. Le monde entier, ne s'est-il pas émerveillé après la bête, et n'a-t-il pas adoré le dragon qui donna pouvoir à la bête vers 3:4 de ce chapitre? La femme fut assaillie ici, ses forteresses lui furent prises, de sorte qu'elle ne pouvait demeurer en sûreté dans ce ciel et cette terre que Dieu avait fait pour elle. C'est pourquoi un autre lieu lui fut préparé par Dieu dans le désert, et des ailes d'aigle lui furent données pour y voler, mais le dragon entra dans le ciel où elle était auparavant et en conserva la possession. Rêve 12. De sorte que nul n'a connu l'Église tout ce temps-là, sinon celui qui est né d'elle dans le désert, lieu dont le monde n'a jamais rêvé, mais où il la cherchait dans le ciel et sur la terre dont le diable s'était emparé. Et là ils exaltent les ordonnances, les devoirs, l'Église, le ministère, etc. Comme les Juifs faisaient, le temple du Seigneur, ne sachant pas entre quelles mains tout cela était, et qu'ils adoraient ainsi, considérez donc cela, ô vous chrétiens. Je dis ce que je sais assurément, Dieu ne pouvait être véritablement adoré en aucune de ces choses tant qu'elles étaient entre les mains du diable, mais l'esprit prostitué et sa semence adorent là, et l'adoration de l'Église et de sa semence était une adoration du désert, ou une adoration qu'elle a prise de Dieu dans le désert. Remarquez maintenant, et considérez mon témoignage, ô vous chrétiens, je nie toute adoration, toutes ordonnances qui furent enseignées aux chrétiens d'autrefois, et que pratique maintenant l'esprit prostitué, car le diable s'en est emparé et l'a corrompu, et l'ayant corrompu, Dieu ne pouvait plus y être adoré, mais l'esprit antichrétien s'y assit, publiant ces choses comme sa loi. Il s'assit dans le temple de Dieu, et fit là usage des vases et des ordonnances qu'il avait emmenés captifs dans sa Babylone, et je nie qu'il soit possible d'en avoir un véritable usage jusqu'au temps du recouvrement. Et maintenant le temps du recouvrement est venu, et la restitution a commencé. Les gens ne le savent pas, mais exaltent l'ancien ciel et l'ancienne terre, que Satan avait corrompu, les dressant en opposition au nouveau, que Dieu a nouvellement formé et qu'il fait paraître dans une véritable beauté et une véritable gloire. Or, dans cette guerre, bien que le diable, la prostituée et sa semence aient arraché à la femme sa semence, et banni, pour ainsi dire, sa semence hors de la terre, ils ne purent toutefois toucher la femme, ni vaincre la vie de Dieu dans sa semence, mais seulement tuer leur corps, la vie restait encore victorieuse sur eux et non soumise à eux. Ils pouvaient susciter des églises, des ordonnances, des ministres et des devoirs, et faire adorer tous les habitants de la terre dans quelque partie ou autre sa Babylone, mais ils ne purent jamais faire que la semence se courbât devant aucune de leurs images, ni ne purent-ils nuire ainsi à la femme, qui était dans le désert, hors de la portée de toutes ces choses, et là elle mangeait le pain de vie avec des larmes, pleurant sur son état désolé et sur la perte de ses enfants. Et là seul se trouvait le vrai pain de vie, qui ne devait être ni connu ni goûté dans aucune des ordonnances de l'apostasie. Vous reconnaîtrez tous un jour que ceci est un témoignage véritable, présenté à vous dans un amour sincère, si vous pouviez le voir maintenant, ce serait bon pour vous. Bref exposé de ce que nous sommes, et de ce que notre œuvre est dans le monde, nous les premiers Quakers sommes un peuple que Dieu a converti à lui-même, un peuple en qui Dieu a relevé la semence de sa propre vie, et l'a fait régner sur la partie terrestre en nous-mêmes, un peuple que Dieu a divorcé de l'esprit de prostitution, et uni à son propre esprit. Nous, beaucoup d'entre nous, avons cherché vraiment et uniquement Dieu dès notre enfance, nos consciences nous en rendent témoignage devant Dieu, mais l'honnêteté de nos cœurs fut pourtant trahie, et nous fûmes détournés par l'esprit prostitué, et nous ne savions pas comment nous tourner vers ce qui est de Dieu en nous, qui nous inclinait vers Dieu. Par ce moyen, nous en vînmes à une grande détresse et à une misère au-delà de tous les hommes, non que tous les hommes fussent dans un aussi grand manque de Dieu, de sa vie, de sa puissance et de sa présence que nous, mais le sentiment de cela n'était pas aussi vivement éveillé chez les autres que chez nous. Or il plut enfin au Seigneur d'avoir pitié de nous, et d'orienter nos pensées vers lui, de nous montrer où était la vie, où était la mort, et comment se détourner de l'une pour aller vers l'autre, et il nous donna sa main secourable pour nous tourner. Et ayant été tournés vers lui, nous avons goûté la vérité, la vraie sagesse, la vraie puissance, la vraie vie, la vraie justice, la vraie rédemption, et en recevant cela de Dieu, en le goûtant et en le touchant, nous en venons à connaître que ce que le monde a établi à la place n'est pas la chose. Maintenant, Nous ne sommes pas des personnes qui auraient poussé de l'ancienne racine vers une autre apparence, comme une secte l'a fait à partir d'une autre, jusqu'à ce que beaucoup se soient succédés les uns après les autres. Le terrain demeurant toujours le même d'où tous ont grandi. Mais ce terrain a été ébranlé et s'ébranle, détruit et détruisant, ôté et sautant en nous. Et l'ancienne racine de Jessé a été rendue manifeste en nous, et nous avons été transplantés par la puissance éternelle de la vie, et un changement réel a été produit en nous. Et là, nous avons rencontré l'appel de Dieu, la conversion à Dieu, la régénération en Dieu, la justification, la sanctification, la sagesse, la rédemption, la vraie vie et la puissance de Dieu, que le monde ne peut pas même supporter de nommer. Et ce que Dieu fait de nous en Christ, nous savons que c'est vérité et non mensonge, et lorsque nous en rendons témoignage au monde, selon la mesure de la vie de Dieu en nous, nous disons la vérité et non le mensonge, quoique le monde, qui ne connaît pas la vérité, ne puisse entendre notre voix. Or notre œuvre dans le monde est de manifester les vertus de celui qui nous a appelés, de vivre comme Dieu, de ne reconnaître rien dans le monde que Dieu ne reconnaisse, d'oublier notre pays, notre parenté, la maison de notre père, et de vivre comme des personnes d'un autre pays, d'une autre parenté, d'une autre famille, de ne rien faire de nous-mêmes ni de ce qui plaît à l'ancienne nature, mais toutes nos paroles, toute notre conduite, oui chaque pensée en nous, doivent devenir nouvelles. Tout ce qui sort de nous doit sortir du nouveau principe de vie en nous et répondre à ce qui est en autrui, mais nous ne devons en rien plaire à l'ancienne nature, ni en nous-mêmes, ni en qui que ce soit. Et en marchant ainsi fidèlement avec Dieu, nous avons dès maintenant une récompense, et à la fin une couronne, qui compense et compensera tous les reproches et toutes les duretés que nous rencontrons ou pouvons rencontrer dans le monde. Nous devons aussi être témoins pour Dieu, et propager sa vie dans le monde, être des instruments dans sa main, pour tirer d'autres hors de la mort et de la captivité, vers la vraie vie et la liberté. Nous devons combattre les puissances des ténèbres partout où le Seigneur nous appelle. Et cela, nous devons le faire dans sa sagesse, selon sa volonté, dans sa puissance, et dans son amour, sa douceur et sa mansuétude. Nous ne devons pas emprunter des voies selon notre propre sagesse, mais il faut une vigilance stricte établie dans la vie, pour empêcher qu'elle ne se relève. Nous ne devons pas non plus parler des paroles que la sagesse humaine appellerait sages, ni aller, selon notre propre volonté, chercher qui que ce soit, mais le Seigneur doit aller devant nous en nous conduisant. Nous ne devons pas non plus faire usage de notre propre force, mais sentir son bras dans notre faiblesse. Nous ne devons pas non plus sortir dans cet amour, cette douceur ou cette mansuétude qui plaisent à l'esprit charnel, mais nous devons être vrais envers Dieu, maniant l'épée avec habileté et fidélité, jugeant et abattant le transgresseur dans la puissance et l'autorité de Dieu. Et quand, chez un autre, la chose douce, basse et humble est atteinte et relevée, alors le vrai amour, la douceur, la tendresse, la mansuétude doivent s'étendre vers cela. Le Seigneur Dieu est rude envers le transgresseur, et dans toute l'Écriture il le taille et le juge, et si nous sortons dans le même esprit, nous trouverons les mêmes conduites pour faire la même chose, car le Seigneur Dieu ne sera jamais tendre là, et ce qui vient de lui vit en lui et conduit par lui, ne peut être tendre là où lui-même ne l'est pas. Or la racine même de cette sévérité est bonne, et de Dieu, et a tout au fond amour et douceur. Oui, c'est avec compassion, amour et entrailles que nous usons de l'épée. C'est par compassion pour la pauvre créature captive, afin que nous puissions abattre ce qui la tient en lien et en captivité. Et bien que, pour l'amour du Seigneur, nous semblions être ennemis de toutes sortes d'hommes, nous ne sommes pourtant pas des ennemis, et nous ne pourrions nuire au moindre d'entre eux en aucune façon, mais nous sommes de vrais amis de leurs âmes, et de leur corps aussi. Notre seule controverse est avec ceux qui les captivent et les rend misérables, car nous ne combattons pas du tout contre la chair et le sang, mais contre la principauté et la puissance qui ont détourné de Dieu et règnent dans la personne contre Dieu, pour la ruine et la destruction du pauvre homme. Oui, si nous avions entre nos mains toute la puissance de la terre, nous ne pourrions établir notre propre voie si, à la manière des hommes, je puis l'appeler ainsi, ni même troubler les autres dans leur voie par une telle puissance, mais nous devrions attendre avec patience jusqu'à ce que Dieu nous donne une entrée par sa puissance. Que les hommes donc ne s'acharnent pas en argument contre nous, mais qu'ils considèrent sérieusement si nous sommes de Dieu ou non. Qu'ils considèrent, non avec la raison et l'entendement qui sont éloignés de Dieu, mais avec le témoin qui est caché dans le cœur. Il y a un grand argument tangible que nous sommes de Dieu, le voici, le monde entier est contre nous, la partie mondaine partout combat contre nous, la partie mondaine, dans toutes sortes et sectes d'hommes, s'oppose à nous, la fureur des hommes partout se lève contre nous. Mais ceux qui sont si ardents contre nous, si jamais ils devenaient doux et calmes, considérant patiemment notre cause et consultant le témoignage qu'ils trouvent dans leur propre cœur à notre sujet, ils seraient bientôt apaisés et verraient que nous ne sommes les ennemis de personne, ni contre aucune loi juste, ni contre les parents, ni contre les gouvernements, ni contre quoi que ce soit de bon dans le monde, mais seulement contre ce qui est mauvais et corrompu. Et en vérité, la corruption des choses, Dieu nous l'a montré, et chaque jour il nous appelle d'une manière immédiate à en rendre témoignage contre elle. Que les hommes donc soient sobres et prennent garde à ce qu'ils font, de peur d'être trouvés combattants contre Dieu, car les reproches, les moqueries et les autres persécutions qu'il dirige contre nous retombent en réalité sur lui. Ce n'est pas en tant que nous sommes des hommes, mais en tant que nous lui obéissons, en tant que nous nous tenons comme témoins pour lui, que nous rencontrons ces choses. Or, comme ce n'est pas nous-mêmes qui faisons ces choses, mais la vie et la puissance de Dieu en nous, de même ce n'est pas nous qui sommes visés, mais cette vie et cette puissance. Si ce n'était la vie et la puissance de Dieu, nous pourrions être aussi acceptables que d'autres hommes. C'est parce que nous ne sommes pas du monde, mais que Dieu nous a appelés hors du monde, que nous sommes tant haïs du monde. Voilà la véritable cause, bien que le monde ne la reconnaisse pas davantage maintenant qu'il ne le faisait au siècle passé. Pourtant je ne dis pas cela pour mon propre intérêt, afin d'éviter ma part de la croix, car l'opprobre de Christ est notre richesse, oui, un trésor bien plus grand que celui qu'on trouve dans le palais d'Égypte. Oui, la présence de Dieu, la douce puissance de la vie, répare toutes nos pertes, de sorte que nous n'avons aucune raison de nous plaindre. Il est très doux, agréable et profitable pour nous d'être trouvés souffrants pour Dieu, mais nous savons qu'il ne vous sera pas profitable d'être trouvés persécuteurs. Cela vous est dit dans un amour véritable et une bonne volonté, par quelqu'un qui ne vous souhaite aucun mal, malgré tout le mal que vous avez exercé envers le peuple cher et précieux de Dieu pendant toutes ces années. Que Dieu ouvre vos yeux, afin que vous puissiez voir qui vous avez combattu, et contre qui vous vous êtes endurci et fortifié, afin que vous vous incliniez devant lui, que vous receviez la vie de lui, et que vous ne périssiez pas dans votre contestation et votre opposition. Un ajout concernant la doctrine de la justification. Parce que la doctrine de la justification est d'une grande importance, et que l'ennemi du genre humain a extrêmement cherché à la corrompre, et qu'il a beaucoup prévalu dans l'apostasie, et que les ténèbres qui surgissent de la sagesse charnelle sont aujourd'hui très épaisses à ce sujet, c'est pourquoi dans un amour véritable pour les âmes, il m'a été imposé d'examiner cette écriture qui en parle principalement, et de l'éclaircir de là pour ceux qui n'ont pas encore atteint la vie qui a donné. L'apôtre Paul en traite amplement et pleinement dans son épître aux Romains, et y expose plusieurs choses à ce sujet, qui, si elles sont bien prises en considération, peuvent briser les conceptions actuelles des hommes à son sujet, et les amener à attendre que ces écritures s'ouvrent à eux sous une autre lumière que celle qu'ils ont connue jusqu'ici. Il affirme que la justification n'est pas par les œuvres de la loi. Romains 3:20. Un homme pourrait dire, comme le jeune homme, « Toutes ces choses je les ai faites dès ma jeunesse », ou comme Paul qu'il était irréprochable quant à la loi, pourtant il ne pourrait être justifié par là. Et l'apôtre en donne une grande raison, car c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Or la justification ne vient pas de ce qui fait connaître le péché, mais de ce qui en sauve et en délivre. La connaissance du péché peut pousser un homme à chercher la justification, mais elle ne peut le justifier, au contraire elle le condamne, mais ce qui le délivre du péché, que la loi fait connaître, cela le justifie. 2. Il affirme que « la justice de Dieu, qui est la justification, est manifestée sans la loi » Romains 3:21. La loi fait connaître le péché, et montre au pécheur le besoin de justification, mais la justification elle-même ne vient pas de là, elle est manifestée sans elle. La loi commande à la nature d'agir selon ce qui concerne les similitudes, figures, types et ombres, et d'y obéir, mais la semence ôte la nature qui concerne les similitudes et les ombres, ainsi que les œuvres de la loi. Ainsi, dans l'obéissance à ces choses que la loi commande, il y a une justification par la loi dans l'obéissance aux œuvres qu'elle commande, mais la justification Christ enlève la nature qui a trait à ces choses que la loi commande, de sorte que la justification, la loi, prend fin en Christ. 3. Que cette justice ou justification est attestée par la loi et les prophètes. Vers 21. La loi, bien qu'elle ne soit pas la justification, et que la justification ne puisse venir par l'obéissance à elle, ou par ses œuvres, rend pourtant témoignage à la justification. Car la substance de ce que la loi et tous les prophètes attestent, c'est que rien ne peut justifier, sinon la justice de Dieu. 4. Que cette justice ou justification est par la foi de Christ, Romains 3:22, c'est-à-dire par le fait de croire ou d'entrer dans ce qui justifie. De même que la condamnation venait de l'incrédulité, par l'attachement à l'esprit d'inimitié et l'entrée en lui, de même la justification vient de l'attachement à l'esprit d'amour et de l'entrée en lui, par une véritable union avec Christ dans l'esprit, union qui se fait par la foi qui vient de Christ. 5. Que cette justification ou justice est sur tous ceux qui croient. Romains 3:22. Celui qui reçoit la foi croit, et celui qui croit à la justice, et celui qui ne croit pas ne peut avoir la justice, mais la condamnation et la colère demeurent sur lui. 6. Que cette justification est gratuitement par la grâce. Romains 3:24. Il n'y a aucun moyen de parvenir à cette justice, sinon par le don de la grâce, don qui est donné gratuitement. Ainsi, si jamais l'homme doit être justifié, il doit connaître la grâce et le don qui vient de la grâce, et le recevoir, et en le recevant, il ne peut manquer la justification, et en ne le recevant pas, soit par ignorance, soit en y résistant, il ne peut en aucun cas être justifié. 7. Que cette justification est par la rédemption de Christ, Rome 3, 24. Christ est le Rédempteur, la rédemption, dans laquelle se trouve la justification, est en lui, et il n'y a aucun moyen de rencontrer la justification ou la rédemption, sinon en recevant celui en qui elle se trouve, et celui qui l'a, a la justification et est rendu participant de la rédemption, et celui qui ne l'a pas ne l'a pas. Remarquez donc, la justification ou la rédemption ne vient pas du fait de croire une chose accomplie en dehors de l'homme, bien que cela aussi doive être cru, mais de recevoir Christ dans le cœur. Car la vertu de tout ce que Christ a fait au dehors est en lui, et je ne puis en devenir participant en croyant qu'il a fait telle chose au dehors, ou qu'il l'a faite pour moi, qu'en recevant sa vertu en moi et en la sentant en moi. C'est cela qui me sauve et qui fait que ce qui a été fait au dehors devient mien. 8. Que Christ est la propitiation, Rome 3, 25, c'est-à-dire ce qui appelle et ouvre la voie des pécheurs vers Dieu, de sorte que celui qui reçoit véritablement Christ a l'expiation. Mais celui qui ne l'a pas reçu ne fait que rêver de paix avec Dieu, tout en demeurant dans l'inimitié et en restant exposé à la colère, ayant sur lui le lien de l'iniquité, et étant dans la nuit et n'ayant pas de paix, demeurant encore soumis aux convoitises et aux passions de la vie naturelle. 9. Que cette propitiation est par la foi dans le sang, Rome 3, 25. Rien n'apaise Dieu sinon le sang de son Fils, et rien ne sent le sang sinon la foi, et ce qui est dans la foi. Un homme peut lire les Écritures, rassembler des notions sur la justification, penser qu'il croit correctement et qu'il sera justifié. Mais il n'en vient jamais à sentir le sang, ni la vie qui est dans le sang, jusqu'à ce qu'il reçoive la foi. Alors il connaît la vraie propitiation et la vraie paix, dont auparavant il ne faisait que parler. 10. Que cette foi est la justice, la foi est le don de Dieu, et ce don justifie, ce don est la justification, c'est cela que Dieu a imputé à justice. Rome 4, 3, 5. La foi est dans le sang et le sang dans le Fils, et dans la véritable réception du Fils, on connaît et on sent à la foi et le sang. Ce sont des paroles vraies, quoique dures pour l'oreille charnelle. Ne trébuchez pas dans la sagesse, mais attendez calmement la révélation de l'Esprit, alors vous direz que le prix de cette connaissance est inestimable. Et si une fois vous en venez à goûter ici la vérité, toute votre connaissance dans la lettre ne sera pour vous que rebut. Vous êtes venu au sang de l'aspersion. Oh, ne vous reposez pas dans une manière extérieure de croire, dans une chose extérieure, mais cherchez la voie pour venir au sang de l'aspersion. 11. Que la justification est celle de l'impie, vers 5. Celui que Dieu rend juste était impie avant qu'il ne le rende juste. Rien d'autre que l'injustice ne pouvait lui être imputé dans la transgression, avant que Dieu ne lui donne son Fils et ne le rende juste en son Fils, car rien n'est juste devant Dieu sinon Christ, et l'homme seulement dans la mesure où il est pris dans sa justice, ce qui se fait non par un croire tiré de la simple lettre, mais par une réception de la foi dans la vie. 12. Que la justification de l'impie vient de croire en celui qui justifie. Vers 5. Le don de la foi procède de lui et est reçu dans le cœur. Or, tant par le don lui-même que par son exercice se fait la justification, par la réception du don la personne est justifiée, par l'exercice du don toutes ses actions sont justifiées. Christ, admis dans le cœur, justifie le cœur qui le reçoit, et Christ, étant dans le cœur, justifie tout mouvement et toute action qui procède de sa vie, et tout autre mouvement ou action n'est pas justifié, car il est hors de ce qui est justifié et se trouve dans et vient de ce qui est condamné. Abraham crut Dieu, et cela lui fut compté à justice. Vers 3. Dieu lui promit une semence et il crut Dieu. Dieu lui dit « Sacrifie ce type », il crut. C'est cela qui lui fut imputé à justice. Or, s'il n'avait pas cru, s'il n'avait pas reçu le don, ou s'il n'avait pas exercé le don, aurait-il pu être juste? Ainsi Abraham ne fut pas justifié par quelque œuvre qu'il fût ou pu faire, mais par la réception et l'exercice de la foi en la semence, en sortant de son pays, de sa parenté et de la maison de son père, non de lui-même, mais par la foi, et en vivant pour Dieu et en obéissant à sa voix dans ce pays où il était conduit, non selon sa propre volonté ou sa propre force, mais dans la foi. Et c'est en entendant l'appel de Dieu, en recevant la foi, et en vivant hors de soi, hors de l'entendement, de la volonté et de la puissance propre à l'homme dans la foi, la puissance vivante et la sagesse de Dieu, que se trouve maintenant la justification, et ceux qui font ainsi son enfant d'Abraham, né de la femme libre, tandis que ceux qui prennent des pratiques de la lettre, sans être greffés dans la vie, ne sont que des enfants de la servante, des enfants d'Abraham tels que les Juifs l'étaient si tentés, et ils ne peuvent hériter. 13. Que là où se trouve la foi imputée à justice, le péché n'est pas imputé mais couvert, ce qui est un état bienheureux, vers 6, 7, 8. Le péché coupe de Dieu qui est vie et béatitude. Le péché expo à la colère du Créateur, trop grande pour que la créature la supporte. Malheur et misère seront la part de celui à qui Dieu impute le péché, mais heureux celui dont le péché est couvert. C'est une condition heureuse, la vie et l'immortalité lui seront bientôt ouvertes. Or cette béatitude ne vient pas des œuvres de la loi, car elles ne peuvent ôter le péché, mais de la justice de la foi, qui peut couvrir le péché même aux yeux purs de Dieu. Ô chrétiens, chrétiens, n'imaginez pas que vous êtes couverts du péché, mais sachez-le, sentez-le, entendez-le vous dire votre justice et son approbation de vous. Ne vous reposez jamais avant d'être rendu si participant de la vraie justice que, par sa vertu en vous, vous puissiez être au-delà de tout doute qu'il s'agit bien d'elle. Croire depuis la lettre, hors de vous, que vous êtes justifié, peut aisément vous tromper, mais si une fois vous en venez à sentir véritablement en vous-même la chose qui justifie, et à trouver ainsi en vous sa puissance et sa vie, au-dessus de la puissance de tout ce qui condamne, chassant hors de vos cœurs la chose condamnée et le condamneur, avec toutes ses œuvres, cela ne peut tromper. La vertu de la vie fut perdue dans l'apostasie, et ceux qui étaient vivants ne jouissaient pas tant de la vie qu'ils ne la pleuraient et soupiraient après elle, et la puissance et la sûreté de la vie apparaissaient alors le plus dans le deuil. Mais maintenant l'apostasie touche à sa fin, et la vertu commence à rejaillir, et celui qui veut être chrétien aujourd'hui doit l'être, non en conservant ses anciennes notions, mais en sentant cette vertu nouvelle, et en grandissant dans cette vie et cette puissance nouvellement jaillie du Seigneur, dont l'apparition est nouvelle. Mais celui qui cherche, qui se joint à, et demeure attaché à cette puissance qui assèche les eaux et met un crochet dans les narines du Léviathan, trouvera le monde avec tout son cours prenant fin en lui-même, et le commencement et la croissance d'une vie sans fin, et ceux en qui cette vie vivront aussi. Mais là où la mort maintient la puissance de la vie abaissée, ceux-là ne vivront pas ni ne connaîtront la bénédiction, mais demeureront sous la malédiction de la misère et de la mort, et sous les puissances des ténèbres. Regardez donc autour de vous et faites un choix sage, car vous êtes les serviteurs de celui à qui vous obéissez, soit le prince des ténèbres, avec ses formes de piété inventées, soit le prince de la lumière dans la puissance vivante, et votre récompense sera selon votre choix et votre œuvre, ou la mort dans la mort, si vous choisissez et vous joignez à cela, ou la vie dans la vie, si vous vous joignez à cela. Que celui qui a une oreille pour entendre entende. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.